et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bonjour, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Émission On en jase de votre lundi. Émission, on parle d'actualité. Actualité locale, provinciale, fédérale. Aujourd'hui, on va s'attarder également de l'international avec Luc Laliberté aux alentours de 13h. On sait plus quoi penser du dossier en Iran. Luc va tenter de nous simplifier le tout. On va également parler de politique provinciale dans quelques instants dans le caucus avec Emmanuel Latraverse,
et voilà.
Avec Emmanuel Latraverse, je me corrige. Emmanuel qui rit, justement, avec raison. On va surtout parler de ce conseil des ministres qui sera annoncé demain par Christine Fréchette. Un conseil des ministres que je dirais à première vue dans la continuité. J'ai bien hâte d'entendre Emmanuel là-dessus. On va revenir sur la polémique, sur la clause dérogatoire, la loi 96 avec Charles Milliard. Puis Mark Carney qui nous a fait un beau petit vidéo de 14 minutes sur YouTube. Pour pas dire grand-chose en 14 minutes, mais pour parler quand même. Donc on va regarder le tout. Alex Laramé sera également dans l'émission aux alentours de 12h40 pour parler de cette superbe victoire du Canadien de Montréal hier. 4-3, Pascal Sévin, en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay. C'est 1-0 pour les Habs contre le Lightning. Prochain match demain soir. On va faire le tour également des autres séries qui ont débuté ce week-end, notamment défaite des Sénateurs d'Ottawa 2-0 face aux Hurricanes de la Caroline. Mais avant tout ça, Pascal, est-ce que tu as passé un beau week-end?
Merveilleux week-end. Quelle belle journée samedi. Puis hier, on ne se sentait pas coupable de faire nos commissions, la cuisine et tout. Il pleuvait.
Du tout. Hey, samedi, j'étais à Montréal. Il faisait 22 degrés. Wow. On s'est promené en T-shirt et en culotte courte toute la journée.
Tout le monde revivait. J'étais allée du côté du ski-touring au Mont-Stonable. Il y avait du monde. 10 000 personnes, Jeff. C'était fou. Tu dis, Colin, les terrasses des restos en y allant étaient pleines. Québec commence à revivre.
Ah, écoute, à Montréal, en fin de semaine, là, j'ai vu tout le monde avec le sourire.
Ah ouais, hein, ça fait du
tout
bien.
Tout le monde est heureux. Ben des violonistes qui jouaient sur la rue Sainte-Catherine, plein de musique, le monde tapait des mains.
C'était-tu propre?
Oui, honnêtement, je te dirais qu'on parle régulièrement mal de Montréal. Moi, j'ai adoré ma fin de semaine. J'ai trouvé que la ville était belle. Je veux dire, reste du ménage printanier à faire comme n'importe où. Là, si tu regardes ça à Québec, il en reste.
Rien de gros à signaler.
Beaucoup moins d'itinérance que je peux voir à Saint-Roch.
Bon, ça doit dépendre des secteurs, parce qu'il y a quand même des campements à Montréal.
Je me suis promené, Sainte-Catherine, Maisonneuve, Saint-Denis, Sherbrooke. Fait que c'est ça. Les étudiants de l'Université McGill étaient en feu samedi soir. Ça s'en allait partout dans des parties, habillés comme le printemps. Donc, bref, c'était très, très, très plaisant. Un petit week-end en amoureux avec ma douce. On est allé voir Jérôme 50 au Foufoune électrique le vendredi. Il a donné une performance endiablée. On ressort de là en ayant gagné des passes pour le Vans Rob Tour, moi et Val. Donc, Val et moi. Donc, on s'en va là, fin août, au Parc Jean-Drapeau.
Extraordinaire. Ça aussi, là, ça va être un bel événement, là, j'ai l'impression, parce que c'est plein à chaque fois.
Exactement. Donc, non, moi, j'ai... Toi, on parle beaucoup en mal de Montréal, mais moi, j'avais rien à dire en mal cette fin de semaine. J'ai adoré mon week-end. Aller visiter la métropole, ça vaut la peine, justement, de s'encourager entre grandes villes au Québec. Avant de parler avec Emmanuel Latraverse, je me corrige. Quelques manchettes, Pascal, pour débuter.
Oui, tu l'as peut-être goûté, cette inflation au niveau de l'essence qu'on a connue dans les dernières semaines en allant à Montréal en fin de semaine. Mais c'est moins cher quand même du côté de la métropole ces temps-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que le prix de l'essence aujourd'hui, il faut voir peut-être une constatation. C'est la taxe de 10 cents le litre qui est suspendue. Ottawa l'avait enlevée jusqu'en septembre prochain. On avait fait l'annonce il y a peut-être une semaine et demie. Et c'est cette taxe d'assise fédérale-là sur l'essence qui risque de vous faire souffler un peu à la borne. Donc, taxe fédérale de 10 cents le litre qui est tombée, c'est 4 cents sur le diesel. On devrait voir bouger tout cela dans les prochains jours. Inflation qui a augmenté à 2,4% en mars au Canada, c'est important de le dire malgré tout, ça a des impacts. Début d'année canon aussi pour les mises en chantier à Québec, donc construction résidentielle qui faiblit pas. C'est Radio-Canada qui nous rapporte que ça a doublé depuis le début de l'année comparativement à la même période en 2025. On est à près de 1380 mises en chantier d'habitation confirmées au premier trimestre de 2026. Ça, c'est par la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Ce matin, vous l'avez vécu dans l'émission avec Yannick et Max. Gros accident du côté de l'autoroute 20.
Oui, vraiment.
Tout le monde a dû être très patient.
Deux poids lourds, hein?
Oui, on est dans des poids lourds, effectivement, autour de 8h40 qui se sont emboutis, là, un en l'arrière de l'autre sur l'autoroute Jean-Lesage. C'était direction ouest. Mais malheureusement, c'était à l'auteur de l'avenue Taniata. Déjà, c'est difficile le matin. Ajoutons à ça cet accident-là. Heureusement, je peux vous dire que ce qui a été le plus spectaculaire, c'est le déversement d'huile de diesel sur la chaussée. C'est pour ça qu'on a eu une intervention du ministère des Transports. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le conducteur qui a été percuté, oui, est au centre hospitalier, mais c'est une mesure préventive. On ne craint pas pour sa vie. Par contre, le secteur est encore difficile autour de 11h15 aujourd'hui. Là.
Exactement. Ça crée énormément de congestion.
Et en terminant, on va en parler dans quelques instants, mais c'est une grosse semaine pour Christine Fréchette. Christine Fréchette qui va annoncer son conseil des ministres et qui était à Tout le monde en parle hier aussi.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus avec Emmanuel Latraverse, c'est de midi à midi 30 du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 102.1. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, bon lundi.
Merci, passe un beau week-end.
Toujours, il faisait beau.
Hein, l'enfer, hein?
Non, mais juste le fait qu'il y ait du soleil, là. Pouvoir sortir dehors du soleil et ne pas avoir froid, c'était comme absolument divin.
C'était rêvé. Hey, Emmanuel, je commence avec ça. 30 secondes, j'en ai parlé justement d'entrée de jeu. Est-ce qu'on est trop critique envers la métropole Montréal? Parce que moi, j'ai passé un... Non, mais c'est vrai! Moi, j'ai passé un super beau week-end, mangé dans un des meilleurs restos que j'ai mangé samedi soir, aller voir un show Foufoune électrique. Il faisait beau, j'ai trouvé que Sainte-Catherine était belle, j'ai magasiné dans les commerces.
T'es sûr, c'est pas parce que t'étais en congé, Jeff, que c'était fermé?
Peut-être que c'est parce que t'es en congé, peut-être que c'est parce que j'aime trop ma blonde, puis j'étais avec elle, puis je tripais. Mais Colin, moi, j'ai vu moins d'itinérance qu'à Saint-Roch, à Québec, j'ai vu une ville, tu sais, pas propre, mais pas sale non plus, tu sais, je veux pas... Je me suis dit, écoute, moi, à l'autre bout...
Je pense que ça dépend des quartiers, là. Mais tant mieux si Montréal, aux yeux des gens de Québec et des gens de l'extérieur, recommence à trouver son lustre. Moi, comme Montréalaise à temps partiel, je peux te dire que le problème de Montréal, ça demeure celui pour les gens qui y habitent, là, de circuler, là, tu sais.
Oui, hein?
Je veux dire, les cônes orange, les nids de poules, mais tu sais, on est rendu avec des nids de dinde, là, tellement qu'ils sont
ça,
comme énormes et monumentales.
Sur Sherbrooke, hier, quand je suis parti de l'hôtel, et là, je vais aller prendre le pont Jacques-Cartier, à un moment donné, j'ai dit à ma conjointe, qui essayait de lire son livre, hey, « Excuse-moi, tu ne seras pas capable de lire parce que là, je contourne les nids d'autruche. »
Non, non, mais c'est comme une partie de golf là, qu'on tire dans Montréal. Tu sais, quand je pense, peut-être qu'il faudrait que je m'achète un Jeep, tu sais, jacké, là, pour pouvoir sommer. Je pense que c'est ça qui fait que les Montréalais sont tellement à cran.
Je comprends.
Et la mairesse de Montréal a raison. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut... Peut-être si on recommençait à l'aimer plutôt que toujours la critiquer, là, se libérer de notre syndrome de stress post-traumatique, peut-être qu'elle irait mieux, notre métropole.
Ben peut-être. En tout cas, j'ai passé un beau week-end. Tout à l'heure, par contre, je vais parler plus en détail avec Pascal et avec Alex Laramie, notre journaliste à Montréal. Pour la première fois, je suis allé dans un commerce et je me suis fait servir uniquement en anglais.
Ah oui, hein?
J'ai trouvé ça particulier. J'ai décidé de parler en français.
Il faut dire non en français?
J'ai décidé de parler en français, mais ça m'a pris une heure pour avoir deux cocktails. Au moins, ils m'ont offert gratuit, mais j'ai trouvé ça drôle.
Oui, mais il faut faire preuve de résistance. Tu sais, ma mère, quand j'étais petite, qui se faisait servir en anglais chez Eaton, elle sortait, hein?
C'est ça. Ben, alors, moi, j'ai juste parlé en français.
C'est un peu la même chose, mais on a perdu ce muscle-là, je pense, dans les faits, là.
Exactement. Puis, je comprends que je suis autour de l'Université McGill et qu'il y a plein d'étudiantes et d'étudiants anglophones qui travaillent. Ben, ils peuvent apprendre une couple de mots en français par la bande puis ça devrait bien aller.
Ça l'aiderait.
Ça l'aiderait.
Donc, s'ils étudient en Allemagne, ils apprendraient une couple de mots d'allemand.
C'est ça, exactement. Le Québec, la langue est la langue française. Hey, parlant de ça, tiens, on va sauter directement dans le sujet. Charles Milliard Et la clause dérogatoire de la loi 96, je le sais, tu étais à l'antenne avec Mario Dumont tout à l'heure, mais pour nos auditeurs, je vous fais entendre comment, puis là, je vais reprendre ton expression de tantôt à la télé, comment ils essayent de remettre la pâte à dents dans le tube. C'est bien ça, hein, je pense.
Là, ils leur sortent.
Ah, c'est ça.
Il y a de la pâte à dents partout. C'est la morale de cette histoire.
On l'écoute justement et par la suite, je te fais commenter.
Non, je suis désolé. Le respect des droits des autres, ça fait quand même depuis que je fais de la politique que je dis ça. Je pense que c'est une façon très libérale de procéder. Puis vous savez, sur la clause dérogatoire, on dirait qu'il y a trois façons de voir ça. La CAQ utilise la clause dérogatoire sans justification, sans explication sur l'ensemble d'un projet de loi. Le Parti conservateur du Québec, lui, ce week-end, nous a dit qu'elle allait l'utiliser dans tous les projets de loi. Alors, on prend note de ça. Au Parti libéral du Québec, moi, je vais agir avec rigueur et méthode. Donc, je vais rouvrir la loi 96. Je vais m'asseoir avec les juristes du ministère concerné, de l'Assemblée nationale. Et s'il y a des besoins d'utiliser la clause dérogatoire, je n'hésiterai pas à le faire dans l'intérêt supérieur du Français et des Québécois. Point final.
C'est moi qui est dans le champ, Emmanuel, mais le nationalisme, la langue française, tu sais, ça se règle pas de façon cartésienne. C'est quelque chose qu'il faut travailler fort pour protéger, surtout avec l'expérience que je t'ai parlé à Montréal en fin de semaine. Donc, je trouve l'approche de Charles Milliard qui est trop bureaucratique dans cette dans le fait de la clause dérogatoire.
En fait, moi, si tu veux une loi qui est bureaucratique à souhait, là, et qui est bureaucratique au point de donner des maux de tête à quiconque tente de l'appliquer, c'est la loi 96, c'est le fond de du problème de cette loi-là. Hein? C'est parce que le gouvernement de la CAQ n'a pas eu le courage d'imposer la loi 101 au Cégep.
En effet.
On s'est ramassé avec des montagnes de règles totalement absconses, là, qui sont un véritable casse-tête pour beaucoup. Moi, je pense que M. Milliard, dans les faits, a une position beaucoup... C'est quoi être nationaliste? Aux yeux du PLQ, M. Milliard a une position beaucoup plus nationaliste que celle de son caucus, qui voit la clause dérogatoire comme l'antéchrist, là, tu sais. Donc, on ne peut jamais l'utiliser, c'est toxique, toxique, méchant, 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 il faut toujours protéger les minorités, etc., etc. Lui, les force en vérité à dire, écoutez, s'il faut y aller, il faudra y aller. Puis à un moment donné, vous allez arrêter de faire un enjeu de ça parce qu'on ne gagnera jamais dans le vote francophone. Donc, lui a pris un vrai cap nationaliste par rapport à ce qu'était le Parti libéral depuis 8 ans. Mais dans les faits, le nationalisme a bougé sous la CAQ. Donc, il y a des attentes plus élevées. Mais moi, je ne suis pas prête à dire que ce qu'il propose sur la langue française est inintéressant et qui est prêt à pas la défendre. T'sais. Est-ce que vraiment il faut imposer des montagnes de bureaucratie à des PME de 25 employés sous prétexte qu'il faut les soumettre à la loi 101? De dire que, comme premier ministre, tu vas revoir ça, c'est pas une mauvaise idée. De dire qu'il faut rouvrir la loi pour offrir plus de de francisation, valoriser la culture, améliorer la maîtrise du français chez les jeunes, chez les enseignants, etc. Moi, je pense que c'est quand même une approche très libérale, tu vas me dire, mais qui est assumée. Puis le fait qu'il maintienne la ligne qu'il serait prêt à utiliser la clause dérogatoire, ça tranche. C'est pas le même discours que celui du PLQ. Le problème, c'est que c'est sorti tout croche. Il n'était pas supposé parler de ça la semaine dernière. Il s'est fait amener sur ce terrain-là par un journaliste. Ça a causé des frictions dans son caucus. Il a essayé de mieux s'expliquer le lendemain, ça n'a pas bien passé. Puis là, il est obligé. Alors là, à un moment donné, là, c'est complètement confus. Là. C'est comme tirer une leçon. Quand vous avancez sur des enjeux identitaires, c'est en plus comme Parti libéral, tu veux montrer une rupture avec l'ère Anglade, là, tu sais, canadienne, ben, fais-le bien, puis fais-le pour que ce soit clair, tu sais. Parce que là, il aurait pu, je pense, marquer des points avec cet élément-là, mais à cause de la confusion qui a duré pendant 3 jours, ben, c'est un peu peine perdue, tu sais.
La morale de l'histoire pour Charles Milliard, est-ce que c'est lorsqu'on va s'adresser justement à la question identitaire, au nationalisme, à la laïcité, d'avoir validé le tout avec son caucus avant pour pas qu'il y ait ce double message-là ou cette chicane-là à l'interne?
Ben, valider, non, c'est enfoncer en travers de la gorge de son caucus.
Oui, en effet, parce que tu n'as pas le choix.
C'est un peu ça le message de ce qu'on comprend qu'il leur a dit. C'est écoutez, les amis, voulez-vous rester député d'opposition toute votre vie, là?
En effet, parce que c'est ce qui va arriver.
Si vous voulez gagner, il faut gagner dans le vote francophone, puis il faut que le Parti libéral redevienne un parti nationaliste, là.
Oui.
Alors, tu sais... Alors, il va, mais je pense qu'il y a une leçon là-dedans dans lui sur comment gérer ces enjeux-là. Puis, c'est un test aussi, hein, parce que dans les faits, le caucus a mangé tout rond, Mme Anglade, qui voulait prendre un virage nationaliste, mais elle n'a pas su leur résister. Alors, c'est une question de comment lui va être capable de gérer son caucus et de lui imposer, justement, cette espèce de d'ouverture, là, à prendre les moyens qu'il faut pour reconnecter avec l'électorat francophone.
Mais la tension ou les tensions semblent moins fortes quand même sous Milliard que sous Anglade. Je ne sais pas si c'est le contexte politique, je ne sais pas si c'est le après Marois Risky, Pablo Rodriguez. Il y a quelque chose là qui semble laisser plus de latitude à M. Milliard, non?
Ben, c'est la latitude de la dernière chance puis la latitude des sondages, tu sais. Je veux dire, ils ont franchi le cap des 30 % de peut-être pouvoir gagner. C'est plus complètement exclu. Donc, à un moment donné, ces gens-là savent compter, savent lire des sondages, savent faire preuve d'un minimum de flair politique. Et c'est sûr, je pense qu'il y en a des traits dogmatiques là-dedans, là. Mais ils sont un peu à la croisée des chemins. Puis je pense que ça contribue à donner de l'autorité à M. Milliard auprès de son caucus. Là.
Vous êtes dans le segment Le caucus, justement, avec Emmanuel Latraverse, segment du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase. Emmanuel, demain, 12h30, ça sera l'annonce du nouveau conseil des ministres de Christine Fréchette. Il va-tu être nouveau ou pas si nouveau que ça? On l'écoute hier soir à Tout le monde en parle avec Guillaume Lepage.
Selon le Journal de Montréal, Éric Girard restera aux finances, Sonia Bélanger à la santé, Sonia Lebel à l'éducation, France-Hélène Duranceau au Trésor, Simon Jolin Barrette à la justice. Si tel est le cas, il est où le changement?
Alors, écoutez, je ne vais pas m'avancer sur la composition du Conseil des ministres. Il faut être patient. Ça va être un peu plus tard cette semaine. Ça va être mardi, en fait, que je vais vous présenter ça, le Conseil.
Un petit coup, là.
Ah. Donc, ça sera, ouais, ça sera le changement ou la continuité?
Ça va
continuité?
Être un bon Conseil des ministres. C'est ce que je
mais,
peux
mais
vous dire.
Mais est-ce que ça va être le changement ou la continuité?
Ça va être un mélange des deux, parce qu'il faut à la fois assurer que ce qui était déjà en cours et qui mérite d'être poursuivi puisse être poursuivi. Et puis là où on a du renouveau à apporter, on va l'assurer, on va le mettre en place.
Emmanuel, je comprends très bien que Christine Fréchette dispose de peu de temps et que ce n'est pas le temps de mettre plein de nouveaux ministres à plein de nouvelles places parce qu'ils ne seront pas capables d'avancer aucune chose. Ils vont être en apprentissage. Mais quand même, ça va être dur à faire passer à la population parce que ça ressemble énormément à une continuité de l'ère Legault.
C'est sûr qu'on est dans le changement dans la continuité. Là. Ça a commencé avec l'erreur stratégique là, de faire une rencontre devant les caméras avec M. Legault. Là. C'est comme s'il passait le flambeau. Mais je la comprends, elle a tellement peu de temps. Et parce qu'on est déjà le 20 à 21 avril demain, que la session parlementaire se termine à la mi-juin, il n'y a aucune marge de manœuvre. Et la réalité, c'est que prends le conseil du Trésor, si tu nommes un nouveau ministre, ça va lui prendre 3 mois à comprendre.
Ben, c'est ça.
Alors, dans les faits, elle ne peut pas vraiment changer les porteurs de ballons dans les dossiers où elle veut marquer les esprits.
En plein ça, et que tu parles du Conseil du Trésor, puis je fais le pont avec le ministère de la Santé aussi, où Sonia Bélanger devrait rester. Je crois qu'un grand marqueur qu'elle doit mettre d'ici à la fin de la session parlementaire, c'est de régler avec les médecins spécialistes. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un de nouveau.
Ça urge énormément et totalement, mais c'est un bel exemple. Si tu changes de ministre, au Conseil du Trésor, que tu changes de ministre à la Santé, etc., comment tu t'en sors? Je pense que la porte qui reste à Mme Fréchette, premièrement, il y a un ministère important pour la CAQ qui n'est pas attribué et qui, je suis à peu près à 99% convaincu, va changer de porteur de ballon, c'est immigration. C'est le super ministre de l'identité, là, tu sais, immigration, laïcité, etc., M. Roberge n'a pas réussi à défendre ce dossier-là. S'est retrouvé écartelé. S'est retrouvé désavoué par Mme Fréchette. Ça, c'est vraiment un dossier où tu peux faire une grosse différence. Puis pour le reste, je pense que son calcul, c'est un peu... c'est la technique Louis XIV, là. C'est pas l'État, c'est moi, mais le changement, c'est moi. Ouais. Et que le changement va être incarné par sa façon de gouverner, par les quelques réformes qu'elle va mettre en place. Et par sa capacité de maintenir l'unité du parti, tu sais. Et ça aussi, ça limite ce qu'elle peut faire dans la mesure où M. Drainville lui a demandé l'économie et l'énergie, puis il y a 42 % des électeurs qui ont voté avec lui. Elle est obligée de lui donner un gros ministère. Si les autres gros ministères, elle les bouge pas, ben le seul qui reste de libre, c'est lui, là.
Oui, c'est ça, parce que c'est
alors,
elle...
C'est ça aussi, c'est l'effet domino.
C'est ça, parce que c'est elle qui occupait ces fonctions-là. Mais justement, sur Bernard Drainville, est-ce que les compétences pour être ministre de l'Économie et de l'Énergie, tu sais, je regardais son baccalauréat, il n'y a pas nécessairement d'études ou de travail si poussé en économie?
Ben, est-ce que Mme Fréchette était compétente? Elle a été présidente de la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal. Là. Excuse-moi, là, c'est pas PDG d'Airbus. Là, je veux dire, à ce rythme-là, on s'entend. Là. Je pense que les compétences très fines sont plus nécessaires quand c'est la question du ministre des Finances. Je pense que le ministère, la job du ministre de l'Économie, c'est de donner des orientations politiques, à savoir comment on va utiliser les leviers de l'État pour stimuler la croissance économique. Alors, est-ce qu'il fera un bon ministre de l'Économie ou pas un bon ministre de l'Économie? On verra, mais je te rappellerai que quand Mme Fréchette a été nommée, plusieurs étaient très surpris. Justement, c'est à cause vrai. De son manque d'expérience, son manque d'autorité, etc. Puis bon, elle a réussi à très bien tirer son épingle du jeu, assez pour se forger une réputation qui lui a permis d'être élue première ministre. Alors, c'est dans les faits, je pense qu'il y a une obligation de cohésion dans ce parti-là qui urge, parce que le PQ que le Parti conservateur d'Éric Duhaime tentent de lui grappiller toute son aile nationaliste. Donc, c'est pas mal ça aussi. Là. Des fois, il y a, tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. Madame Fréchette, fallait qu'elle se contente de quelque chose qui marche sur ce front-là. Là.
Clairement. Parlant de changement, on a eu un gros changement l'an passé, à peu près à pareille date, c'est le 28 avril 2025, alors que Mark Carney devenait premier ministre. Et là, Mark Carney s'est présenté comme étant celui qui allait négocier avec Donald Trump et régler nos problèmes de la guerre tarifaire. Un an plus tard, il n'y a pas d'avancée. Et voici ce que Mark Carney nous a dit dans sa vidéo YouTube ce week-end.
La voici. Cette réalité. Le monde est plus dangereux et plus divisé qu'avant. Les États-Unis ont changé de direction. Leur approche au commerce s'est transformée. Cette hausse des tarifs, c'est du jamais vu depuis la Grande Dépression. Nos forces traditionnelles, qui reposaient sur des liens étroits avec l'Amérique, sont maintenant des faiblesses. Nous devons agir.
Je comprends que personne peut contrôler Donald Trump, pas même ses conseillers rapprochés, mais tout de même, après un an, Emmanuel, on n'a pas le choix de se rendre compte que Mark Carney a échoué dans sa grande promesse.
Oui, puis un peu un aveu de ça hein, dans son discours en fin de semaine, là. De dire, ben là, finalement, on comprend qu'on ne pourra pas les contrôler, puis que ça va être plus compliqué, puis que le Canada est carrément affaibli, là. Mais dans les faits, je pense que l'électeur qui voit ça, se dit, OK, Mark Carney n'a pas livré là, un règlement, il a pas réussi à amadouer Donald Trump, etc. Okay. Est-ce que quelqu'un s'imagine qu'un autre premier ministre aurait réussi?
Ben non, exactement. T'as entièrement raison.
Et c'est ça qui lui permet, je pense, en ce moment, de continuer à surfer sur un immense capital de sympathie et de bonne foi de la part de l'électorat, parce que c'est pas comme si Donald Trump était comme ce qu'on disait comme un voyou avec le Canada, mais qui était cohérent, rationnel et constructif avec le reste du monde, là. Tu sais, je veux dire, sur l'échelle des délires, finalement, on s'en sort pas plus mal que les autres. Alors, l'électeur le voit, ça, là. Alors, c'est ça qui fait que, ben, finalement, Mark Carney, c'est peut-être bien. Moi, le reproche que j'ai, cependant, face à ce genre d'exercice-là, c'est que on n'a rien appris.
C'est vrai.
M. Carney n'est pas un premier ministre qui donne vraiment des entrevues de fond au Canada. Il s'assoit pendant une heure et demie avec un podcast britannique. C'est absolument fascinant, mais il ne se prête pas à ce genre d'exercice-là ici. Et dans les faits, les Canadiens ont compris gros changements, grands projets, investissements militaires, moderniser l'économie, investir sur ce qu'on peut contrôler. Ça fait un an qu'ils répètent ça. Mais là, c'est OK, on va où maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ce gouvernement-là doit ajuster son plan de match? Peut-être qu'on aura réponse à ça dans la mise à jour économique
de la semaine prochaine.
Mais j'ose espérer, parce que le problème, c'est qu'à part de reconnaître que le Canada est carrément en position de faiblesse, il n'a pas fait preuve d'une très grande transparence quant à où lui s'en va et comment lui compte aborder ces enjeux-là face à une administration Trump qui continue à détester le Canada, là.
Non, mais t'as entièrement raison, puis je termine là-dessus. T'es même le président finlandais, la semaine dernière, en visite au Canada, a déclaré, ben, le Canada, c'est comme un pays européen, on le voit dans l'Union européenne, mais là, on sait pas trop où Mark Carney se situe là-dedans.
Ben, non, ben, c'est ça. Alors, il y a, tu sais, la liste des questions à lui poser. Je suis pas sûre que, tu sais, quand t'es premier ministre, le choix, c'est où tu investis ton capital politique. Est-ce que le meilleur endroit, c'est d'investir le capital politique dans la lubie de devenir un membre de l'Union européenne?
Ouais.
Ou bien c'est de se concentrer pour signer des contrats militaires, faire des partenariats avec l'Europe? Tu sais, moi, je pense que c'est davantage là-dessus qu'il se concentre. Puis dans les faits, c'est la raison pour laquelle le Canada a payé le nécessaire pour se joindre au grand pacte d'investissement en défense européen, justement pour obtenir les avantages de cette proximité stratégique avec l'Europe, puis se sevrer de notre dépendance sur le matériel militaire américain.
Ça, c'est clair, net et précis. Emmanuel, la traverse, c'est toujours un bonheur de te parler. On se parle demain aux alentours de midi.
Très bien, au revoir.
Salut, bonne fin de journée. Emmanuel, la traverse dans le caucus, justement, avec nous du lundi au jeudi de midi à 12h30. Après la pause, on va faire un saut à Montréal, Pascal CV, parce qu'on va aller parler avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif, concernant ce match du Canadien de Montréal hier.
Vous vous êtes rendus, les gars.
Victoire de 4-3 du Canadien en prolongation. Tour du chapeau de Ural Slafovski. Écoute ça, qu'est-ce que ça avait l'air.
Here comes Suzuki in. Midpoint Hudson, down low, Slafkovski scores! It's a hat-trick! Overtime! Winner for Juraj Slafkovski!
Pas un, pas deux, mais trois buts pour Slafkovski. Les trois en avantage numérique, le but gagnant en prolongation, le Canadien mène 1-0 dans la série. Je suis certain qu'Alex Laramé à Montréal trippe sa vie.
Je suis encore surprise que vous n'ayez pas pété du cœur avec une game comme hier.
Ah, c'était un bon match, c'est le fun, c'est le fun à voir. Et je vais revenir justement sur cette expérience que j'ai vécue à Montréal pour la première fois. Je me suis fait servir uniquement en anglais, puis moi j'ai parlé uniquement en français. Ouf! Ça n'a pas été facile. On en jase dans quelques instants.
On en jase. Mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Midi 37, on en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Émission d'actualité du lundi au vendredi de midi à 14h. Demain, Pascal, il va avoir un gros point de presse à 9h15 demain matin. La Ville de Québec va annoncer ce qui se passe avec les terrasses pour la période estivale sur la Grande Allée.
Oui, parce que je sais qu'il y a des commerçants qui en ont fait derrière, en fait, la Grande Allée pour comme agrandir un peu leur resto.
Exactement, mais là, c'est de savoir s'ils ont le permis pour et tout ça. Donc, c'est tout ce qu'on va savoir demain. Alors, évidemment, Mathias va être sur le terrain avec nous. On va pouvoir lui parler immédiatement après le caucus. Et on va avoir aussi Alexandre Grenier, copropriétaire du groupe Maestro, justement, qui a parlé avec nous du dossier régulièrement. Alors, à pas manquer, on couvre beaucoup l'actualité locale au niveau de l'émission On en jase. Donc, on va faire un beau dossier là-dessus demain, en même temps qu'on va vous présenter ses nouvelles nominations au Conseil des ministres. Quoi qu'il y aura-tu des nouvelles nominations? Est-ce que ça va brasser? Ouais. À date, pas mal, tout le monde a l'air reconduit dans la même chaise.
Ben, garde, parlons-en.
Vas-y
c'était
donc
dans les nouvelles aujourd'hui parce qu'effectivement, ben oui, après le passage à Tout le monde en parle de Mme Fréchette, de Mme Christine Fréchette qui est à la tête à la CAQ, mm-hmm, on a posé la question, est-ce une continuité pour le Conseil des ministres ou un changement de la nouveauté? On vient d'en parler aussi avec Emmanuel Latraverse dans le caucus. Il semble pas avoir beaucoup de surprises qui nous attendent, là. Il y a des rumeurs, Jeff, puis pour, entre autres, les finances, Éric Girard, les portefeuilles économiques sont convoités, on le sait. Entre autres, Bernard Drinville, il faudrait qu'il y ait une place de choix parce que c'était son adversaire à la course à la chefferie. La rumeur court comme quoi on le verrait à l'économie, à l'énergie aussi qui circule. T'sais, il est rigoureux là, quand même, Bernard Drinville. Il va falloir refléter le respect qu'on se doit en politique aussi face à nos adversaires. On voit Simon-Jolin Barrette toujours à la justice. Il n'y a pas grand-chose qui changerait dans le Conseil des ministres qu'on attend pour demain. Assermentation, formation de la garde rapprochée, premier caucus, rencontre avec Mark Carney. Beaucoup de choses qui se sont passées dans la machine caquiste et donc pour Mme Fréchette au courant des derniers jours. Je vais te parler du prix de l'essence parce que c'est aujourd'hui qu'on a cette suspension de la taxe d'assises par Ottawa. 10 sous qui seraient de moins sur votre litre d'essence à la borne, mais ça va coûter des millions au gouvernement québécois. Et pourquoi? Bien, le mode de calcul de la taxe de vente provinciale, là, ça, c'est appliqué sur le prix total à la pompe.
Oui, c'est ça. Quand toutes les taxes sont passées, là, on met à TVQ. Mais là, comme on a enlevé une taxe, bah, il va avoir moins de TVQ. Bon, pratique pour nous dans nos poches.
Moins pour la province.
Oui, c'est ça. Puis là, Christine Fréchette qui nous a dit, oh, « Oui, je vais m'attaquer à la taxe à l'essence. » J'ai hâte de voir comment elle va s'attaquer à ça parce que c'est une double perte pour le gouvernement si elle enlève une certaine taxe à l'essence.
Ben oui, puis le cabinet du ministre des Finances, Éric Girard, en parlait. Hein, impact sur les finances publiques, ça va atteindre près de 25 millions de dollars, comme je vous disais. Puis c'est pour toute la durée de la mesure parce que jusqu'à maintenant, c'est prévu jusqu'à la fête du travail.
Oui.
Alors, jusqu'en septembre. Il y a des analystes économiques aussi qui parlent du fait que le gouvernement Carney pourrait prolonger cette exemption de façon permanente. Donc, beaucoup de choses à éclairer et qui risquent de suivre cette suspension de la taxe d'assises. Il y a eu un accident ce matin du côté de l'autoroute 20. Juste dire que le chauffeur du camion qui s'est fait percuter va bien, est au centre hospitalier par mesure préventive, mais c'est vraiment le déversement d'huile puis de diesel sur la chaussée qui a ralenti et qui fait en sorte que depuis 8h40, on s'affaire là, à corriger la situation sur l'autoroute Jean-Lesage en direction ouest, à la hauteur de l'avenue Taniata. Je peux également te parler de l'inflation. Hein. Ça est en augmentation en mars au Canada. Augmentation de 2,4. Est-ce qu'on est surpris de ce que rapporte Statistique Canada? La réponse, c'est non, en raison de la guerre en Iran. C'est sûr que ça a fait jouer un peu le thermostat économique, tiens.
Okay, oui.
Et toujours en raison, et c'est une des explications potentielles de cette hausse d'enrôlement dans l'armée canadienne, mais on annonce le plus fort recrutement de militaires en 30 ans. C'est porté par des meilleures conditions de travail, un système de candidature qui semble simplifié, mais on a recruté 7310 personnes dans la dernière année. C'est le nombre le plus élevé en au moins 30 ans. C'est ce que rapporte le Journal de Québec. Donc, deuxième année consécutive où le pays a atteint des cibles rehaussées de recrutement. Pour les femmes aussi, 1275 d'entre elles qui ont été enrôlées l'année dernière, c'est 17% de l'ensemble des recrues. Il y a aussi un certain contexte là, de conflit à l'international, mm-hmm, qui aurait fait en sorte que des gens se seraient tournés vers ce métier-là. Puis peut-être terminer avec une petite nouvelle, Jeff. Tantôt, on en abordera d'autres, là, entre autres ce qui va se passer, peut-être une grève chez Air Canada et tout ça en juillet. Mais une amende de 1 500 $ qui a été donnée à un conducteur au Saguenay.
OK. Explique-moi ça.
Est-ce que tu as des doutes du pourquoi?
1 500 $, un conducteur au Saguenay. Cellulaire au volant.
Non. Je te donne un autre indice. Conduis une camionnette. Conduisait dans ce cas-ci.
Conduisait une camionnette, 1 500 $, ben ça doit être grand excès de vitesse.
Oh! Il est fait comme dans le temps. Il a embarqué du monde dans sa boîte de pick-up.
Ben voyons donc!
5 personnes dans la boîte de camionnette. Puis il y a quelqu'un, ben en fait, c'est le porte-parole du service de police de Saguenay, qui dit qu'en 21 ans de service, c'est la première fois qu'elle voit ça. Mais tu sais, il y en a une pas mal qui ont commenté comme quoi dans les années 80, 70, ben oui, 90, hey, ça s'est vu.
Tout le temps de même.
Mais là, tout le temps a changé, ce n'est plus légal.
Nous autres, on était 10 dans Ford familial de mon père pour aller chercher des frites au casse-croûte.
En avant ou dans la boîte?
Ouais, dans la boîte, partout. Tout le monde t'empile un par-dessus l'autre.
C'est fou quand tu y
penses. On voulait tous aller jouer au petit module de jeu à côté du casse-croûte.
Puis vous embarquez là-dedans.
On embarquait là-dedans. Mon père disait, je m'en vais chercher des patates parce que là, on mettait des hamburgers et des hot dogs sur le barbecue. Qui vient? Puis là, on était 10 petits cousins, petites cousines. Hey, nous autres, parfait.
Puis à vous, là, maintenant, c'est inconcevable de juste se projeter là-dedans.
C'est sûr. 418-971-1021, c'est quoi l'histoire la plus folle, justement, que vous avez vécu avec des parents ou quoi que ce soit dans une voiture. Hey, je conduisais le Jeep à mon oncle qui pesait ses pédales. Moi, je le conduisais dans des pits de sable. J'avais 6 ans.
Pits de sable, ça doit se faire encore. Là, même si on n'est pas dans la grande légalité. Mais moi, je me souviens, écoute, je suis plus jeune que toi, mais on n'est pas si loin, là, à 32. Ouais, ouais. Dans le camion de mon père, en avant, c'était un genre de grand banquette. Là. Mm-hmm. Il y avait juste une banquette. Ouais. On était la famille de 5 là-dedans. Moi, j'étais sur les genoux de ma mère, puis il y avait le chien au pied, là. Là, on dirait qu'on est début des années 90.
C'est ça. Hey, moi, je faisais des lifts à l'école. On était 6 dans une Géo métro.
Un auditeur?
Oui,
ou une auditrice?
Je m'étais déjà caché, moi aussi, dans le coffre de la voiture d'un des parents d'un de mes amis. Puis on avait demandé à sa sœur de venir nous reconduire au bar.
Les parents le savaient-tu?
Non, pas en tout. Okay, on se cachait dans le coffre parce qu'on voulait juste monter à 6. On était trop cheap, payer le taxi. Le vestiaire à 2$, mais on dépensait 150$ dans le bar. Ça, c'est... C'est ça, la jeunesse.
Mais tu sais, dans la nouvelle que je te parle, là, le conducteur, c'est un homme de 18 ans. Fait que, il n'a pas connu ces années-là. Il n'y avait pas beaucoup d'excuses pour faire ça.
En effet, tu as entièrement raison. On réécoute le but gagnant de Joral Slafovski.
Here comes Suzuki in. Good point, Hudson. Down low, Slafovski. For Juraj Slafkovský.
Et pour en parler avec nous, on a notre chroniqueur sportif Alex Laramin. Alex, 1-0 dans la série pour le Canadien de Montréal face au Lightning. Trois buts en avantage numérique pour Juraj Slafkovský. Oh, là, soudainement, toutes les mauvaises langues qu'on entendait dans les deux dernières années sur pourquoi on a choisi Slafkovský viennent de se taire.
Ben ouais, je pense que honnêtement le match d'hier, on savait déjà qu'il était bon Juraj, je veux dire, il a été bon aux Olympiques, il a été bon cette saison-ci, mais hier, pour moi, c'était la grande éclosion de Juraj Slafkovský. Tu l'as dit, il a prouvé pourquoi il est un vrai premier choix au total. C'est un gars de 6 pieds 4, c'est un gars physique, puis il a prouvé justement qu'en série, c'est son style de hockey. Puis il a vraiment pris ce match-là sur ses épaules, parce qu'il faut dire que ses compagnons de trio, là, Caulfield, Suzuki, ont traîné le Canadien toute l'année, mais c'était pas le cas hier. Là, le match-up, si on peut dire, avec le trio de Cirelli a été dominé là, du côté des... du côté de Tampa Bay à 5 contre 5. C'est vraiment sur l'avantage numérique que le Canadien était capable de capitaliser. Puis de voir un Juraj qui n'a pas peur justement d'aller vers le filet puis de lancer. Tu sais, le but gagnant, c'est exactement ça. Il aurait pu essayer d'aller rejoindre ses coéquipiers, mais non, il a dit, hey, moi, j'étais assez bon. Il lance, il marque. Oh non, c'était un scénario rêvé pour le Canadien.
C'est un excellent point que tu amènes. Tu amènes aussi un très bon point en disant le trio de Cirelli a eu le dessus sur celui de Suzuki. Est-ce que ça t'inquiète pour le match numéro 2 et la suite de la série? Mais je te dirais surtout les matchs à Tampa Bay où John Cooper a le dernier changement.
Ben, c'est sûr que ça laisse pas présager une grande série là, 5 contre 5 pour le premier trio. Puis tu l'as dit, à l'extérieur, on connaît la réalité, dernier changement. Fait que Cooper peut décider un peu des match-ups puis de mettre justement le trio de Cirelli contre celui de Suzuki. À domicile, on devrait être capable de peut-être reprendre l'avantage puis de leur donner un match-up un petit peu plus favorable. Mais moi, ça m'inquiète pas parce que les grands joueurs vont réussir à se lever au grand moment. Visiblement, Caulfield était visé là, hier. Là, on a vu qu'il a été plaqué à quelques reprises. Selon moi, il faisait partie du plan de match de Cooper. Là, peut-être qu'on va essayer de regarder un petit peu plus Juraj. Ça va ouvrir Caulfield. Donc, moi, je pense qu'il y a trop de talent sur ce trio-là. Puis, ils vont être capables de produire quand même au courant de la série.
Parmi les joueurs visés, Lane Hudson, qui a été pressé de toutes parts par les attaquants du Lightning. J'ai trouvé très intéressante la stratégie de Tampa Bay d'aller à fond de train vers lui et non pas d'être en position où on attend qu'il accélère. J'ai trouvé ça très brillant de la part de John Cooper.
Ben oui, honnêtement, c'est quelque chose qu'on a observé tout au courant de l'année. Lorsqu'on met de la pression sur les défenseurs du Canadien, c'est là souvent qu'on fait des erreurs, on fait des revirements en zone. Là, ça se met à tourner dans la zone du Canadien. T'sais, hier, les buts en avantage numérique de Tampa Bay, on les voyait venir. Là. Je veux dire, on était pris. Là, tu voyais que les
Ouais.
joueurs du Canadien étaient nerveux. On sentait venir ces buts-là. C'est justement en mettant de la pression sur des défenseurs comme Lane Hutson. Parce que si tu le laisses faire, je veux dire, Lane Hutson, il est trop rapide, il va te faire une petite feinte, il va y aller. Il faut vraiment que tu prennes le taureau par les cornes puis que tu fonces vers lui. Fait que oui, c'est un bon plan de match là, du côté de Cooper qui prouve encore pourquoi c'est un des meilleurs coachs dans la Ligue nationale au final.
Tu as parlé de Suzuki et Caulfield qui n'ont pas eu le meilleur des matchs. On s'en sort grâce au tour du chapeau de Slafkovský. Du côté de Tampa Bay, Brendan Eagle a été excellent, mais Nikita Kucherov a été passablement absent dans le match.
Ben ouais, Nikita Kucherov, on l'a vu aussi dans les deux matchs hein, contre Tampa Bay plus tôt cette saison. Il a l'air dérangé contre le Canadien.
Oui.
Je ne sais pas si y a des gens, des
Il
joueurs
est
du
en
Canadien qui ont.
périphérie, je comprends
Ouais.
pas. Il n'est pas du tout pareil comme d'habitude.
Non, puis tu sais, à un moment donné, il y a eu un moment. Je pense que c'était en troisième période ou en deuxième période. Jacky puis lui, ils se sont parlé. T'sais, Kucherov. T'sais, c'est un joueur élite dans la Ligue nationale. Il n'y a rien à faire à aller se prendre avec Jacky. Ce n'est pas son rôle. Il devrait se concentrer sur le hockey. Mais on voit justement qu'il essaie de se coltailler avec les joueurs du Canadien. Il devrait lâcher tout ça. D'après moi, Cooper va le rencontrer. Il va lui dire, regarde, on a besoin de toi à l'attaque. Là. Laisse faire le jeu physique, tout ça. On a besoin de toi. Parce qu'à 5 contre 5, oui, en avantage numérique, on l'a vu. Là, mais à 5 contre 5, totalement absent. Il faut dire que les défenseurs du Canadien ont fait bon travail là, contre un des meilleurs attaquants de la Ligue, littéralement.
On a tous les deux prédit une longue série. Toi, tu as mis le Canadien en 7, si je me rappelle bien. Moi, j'ai mis
ouais.
Tampa Bay en 7. Mais là, si le tricolore l'emporte demain soir, ouf, la pente va être abrupte pour le Lightning. C'est vraiment un match de la plus haute importance pour le Lightning en ayant perdu hier à domicile.
Ben, c'est surtout que toute la pression va vraiment du côté de Tampa Bay. Là. Je veux dire, oui, ils ont un bon club, ils ont gagné deux coupes, mais ça reste que dans les dernières années, ils se sont fait sortir plus tôt que tard.
Ben, en première ronde contre les Panthers de la Floride, là, c'est aussi simple que ça, là.
Ben exactement. Puis là, de perdre les. S'ils perdent les deux matchs à domicile, je veux dire, c'est terminé. Là. Je veux dire, le Canadien va essayer de fermer ça à Montréal. À la limite, peut-être un match 5, mais ça devient drôlement compliqué. Fait que toute la pression est sur Tampa Bay. Ils doivent absolument gagner le match de mardi. Tu sais, je veux pas dire que le Canadien peut se permettre de le perdre, mais un peu en même temps. Là. Même si on le perd, on revient à domicile 1-1. Puis selon moi, tu sais, le match vendredi à Montréal, je veux dire, il n'y a aucune manière que le Canadien échappe à ce match-là. Ça va être la folie en ville. L'ambiance, ça va porter les joueurs du Canadien. Fait que, non, il faut dire que le Canadien est très bien placé, mais quand même, c'est un match qui se termine en prolongation. Puis selon moi, ça me prouve que, d'après moi, Tampa Bay va gagner mardi puis qu'on s'en va pour une série en 7.
Je suis très d'accord avec toi. Dans les autres séries, Alex, Sénateur Hurricane, les Hurricanes l'emportent 2-0. Belle performance de Frédéric Anderson, mais ça prouve que des fois, on dirait qu'on les prend à légère, ces Hurricanes-là, puis Colin qui sont sa job.
Ben, c'est pas un club spectaculaire, les Hurricanes, puis c'est la même recette qu'on voit depuis des années. C'est pas un club qui est physique, c'est un club qui est rapide, on aime ça tirer au filet, on finit tout le temps avec des 35-40 lancés, c'est vraiment leur ADN, l'ADN de Rob Brind'Amour. Puis oui, t'as raison, à chaque année, on les sous-estime, mais c'est un méchant bon club de hockey, puis tu sais, moi, je vois Brady Tkachuk qui, à la mise en jeu initiale, qui se met à se battre, là.
Ouais.
C'est pas son rôle, tu sais. C'est correct, là, c'est un tough, là, mais t'es un des meilleurs joueurs de ton équipe de te sortir pour 5 minutes en début de match. T'sais, imaginez si Juraj avait fait ça. À la mise en jeu initiale, Juraj, c'est pas son rôle.
Je suis d'accord avec toi.
Il doit jouer au hockey puis aider son équipe pour avoir des punitions.
Deuxième match ce soir, 19h30. Autre série qui a le deuxième match ce soir à 19h, les Flyers contre les Pingouins. Les jeunes Flyers qui ont continué de surprendre. Et Travis Sanheim, qui a joué pour l'équipe Canada, a réduit au silence la bande à Sidney Crosby. Ça, c'est un joueur sous-estimé dans la Ligue nationale.
Ben, c'est ces défenseurs défensifs-là hein, qui ont souvent pas le mérite, justement, qu'on leur doit. Ils passent un peu sous silence parce que c'est pas des Cale Makar, des Quinn Hughes qui ramassent des points par saison, mais sont drôlement efficaces. On peut penser à Mike Matheson avec les Canadiens, tu sais. Mike Matheson, c'est pas
c'est
le défenseur
vrai.
Qui a fait le plus de points, mais est-ce que Mike Matheson est aussi important que Lane Hutson? Pratiquement, là, je veux dire, si on perdait Mike Matheson, ça ferait mal, surtout considérant Dobson. Là. Mais oui, pour venir aux Flyers, je veux dire, il semble avoir un élan de jeunesse hein, dans la Ligue nationale. On a vu les Sabres remonter
ouais.
hier contre Boston. Nous, on a gagné. On voit les jeunes Flyers qui ont,
t'as raison.
Pour le premier match, l'ascendant sur les Pingouins. Puis tu vois un Porter Marton qui débarque du college. Puis pratiquement dans les meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Là, je veux dire, il est
encore
gros,
un
il
but
est fort.
Samedi soir.
Ben oui, non, honnêtement, c'est impressionnant. Moi, j'ai pris les Pingouins, là, mais je vais t'avouer qu'après le premier match, j'étais un peu inquiet.
Ouais, j'avais pris les Flyers. Les Sabres, t'en as parlé. Belle remontée hier, justement, après 27 arrêts, deux périodes pour Jeremy Swayman. Finalement, les Sabres en ont marqué 4 consécutifs dans la deuxième portion de la troisième période. Tate Thompson avec 2 buts, 1 passe. Là. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale avec le gabarit qu'il a.
Ben ouais, moi, ce que je vous attendais de voir, c'est... Pour moi, les Sabres de Buffalo, c'était des points d'interrogation partout. Je veux dire, Tage Thompson n'avait jamais joué en série de sa vie.
En effet.
C'est sûr qu'avec son gabarit, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des bonnes performances, mais il y a une différence entre être bon et être très bon. Puis là, on voit que Tage Thompson, lui, dans la catégorie des très bons, tu l'as dit, dans les meilleurs de la Ligue. Donc, il va être capable de transporter cette équipe-là. C'est ça qu'il a fait hier. Il a marqué les 2 gros buts pour ramener son équipe dans le match. Non, les Sabres vont être à surveiller, mais... Je compterais pas les Bruins de Boston pour mort. La série a commencé à Buffalo. Puis ça reste qu'on a, on était capable de prendre l'avance dans ce match-là. On l'a échappé en fin de match. Mais non, d'après moi, on va avoir une bonne série de ce côté-là.
Premier match, Oilers-Ducks ce soir. L'Avalanche qui a battu les Kings 2-1 hier. Vegas qui a battu Utah 4-2. Mais je veux te parler de l'autre série dans l'Ouest. Match à 21h30 ce soir. Le Wild du Minnesota face aux Stars de Dallas. 6-1, Wild, dans le premier match. Personne n'avait vu ça venir.
Ah, même pas proche. Même pas proche. T'sais, même moi, j'ai pris Minnesota, mais j'ai pris Minnesota en 7. Là. C'est-à-dire, moi, je m'attends à une série, une bataille de tous les instants, mais dans le premier match, on n'était pas là du tout. Faut dire que Rupe Hintz, pour les Stars, ça fait mal. C'est leur deuxième centre, là, pratiquement leur premier. Ben, Wyatt Johnson a éclos cette année. Là,
c'est ce qui leur avait coupé les ailes l'an passé contre les Oilers d'Edmonton, également en finale de conférence. C'est quand Rupe Hintz est tombé au combat.
Ben oui, puis tu sais, Eskanen est revenu, mais est-ce qu'il est vraiment à 100%? On le sait pas. Tandis qu'on prend une équipe du Wild qui, année après année, semble avoir certaines difficultés en série, mais là, on ajoute un Quinn Hughes. Ça vient complètement transformer cette équipe-là. Fait que c'est sûr que c'est un match. Là. On va pas partir en peur, là, mais en ce moment, dans l'Ouest, c'est l'équipe qui a le mieux paru après une partie, puis ils semblent destinés à faire un bon bout de chemin en série.
Vraiment, Alex Laramin, toujours un bonheur de te parler. Je te garde en onde avec nous parce que je veux te parler d'une petite expérience bizarre que j'ai vécue à Montréal. Et comme tu habites Montréal, je veux avoir ton opinion. Ça te va?
Alors, on jase de ça, mon gars.
Excellent! On jase juste... Je vous parlais de Montréal, je vous parlais que j'ai eu une belle fin de semaine, que j'ai trouvé la ville pas si tant pire que ça en termes de propreté, en termes d'itinérance. Bon, des nids de poule, on le sait. Ça a super bien commencé vendredi avec l'ami Jérôme 50 au Fofone électrique. Si vous ne connaissez pas Jérôme 50, le voici.
Tu ne serais pas jaloux de mon ami d'ici, qui v'là une coupe d'été, achète les coupes ici. A jaser avec elle autour d'un bac de cacahuètes sur comment le punk rock évoluerait selon Darwin. Donc c'est pas une famille, mon leader hardcore.
La plus belle fille du mosh pit qu'on a fait, qu'on fait encore jouer sur nos ondes. Une excellente chanson. Et là, j'ai trippé parce que j'étais au Fofone électrique, Alex et Pascal, et je me disais, hey, c'est donc bien cool. Ça a été 3 bennes anglophones au début, puis celui qui a fini la soirée, c'est un artiste francophone, Jérôme 50.
La carte principale?
La carte principale, et la foule était en délire. Le mosh pit était gros comme les Fofone électriques. Puis là, ça m'a fait dire, hey, il y a une belle puissance dans notre langue française. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré voir ceci. Mais là, je me retrouve samedi, on s'en va magasiner en ville, on se promène, Val et moi, la vie est belle, et on se retrouve sur une terrasse d'un commerce sur Maisonneuve. La serveuse arrive pour prendre la commande, et moi et Val, on lui parle en français. Mais là, j'ai un service seulement en anglais. Pascal.
Toi, tu dis bonjour.
Oui.
Clairement, là, tu parles en français dès le premier contact.
Oui.
La personne te répond en anglais.
C'est
continue
ça.
En français, puis la personne te répond en anglais. Elle dit pas un moment, hey, je parle pas français, ou est-ce qu'elle
ouais, ben elle fait juste essayer de me dire, ouais, tu parles pas trop français.
Elle te réfère pas à un collègue ou une collègue.
Elle me réfère pas à un collègue. Il y a à ce moment-là une serveuse qui est aussi sur la terrasse qui parle français, qui est une Française d'origine. On le reconnaît avec son accent. Puis là, ben, elle essaye de se débrouiller avec nous autres. Alex Laramé, ça t'arrive souvent, toi, qui viens à Montréal?
Ben, gars, je vais t'expliquer quelque chose, Jeff. Le Montréal, c'est... faut découper Montréal, parce qu'on met souvent Montréal dans un même paquet, mais c'est beaucoup une histoire de quartier en quartier. Moi, par exemple, je reste dans le quartier Rosemont. Là. C'est vraiment un quartier gentrifié, là, beaucoup de familles, tout ça. moi, personnellement, mon expérience dans tous les commerces près de chez nous que je vais à pied, ça parle tout français. Là. C'est vraiment français-français. Mais c'est sûr que dans ton expérience, toi, je pense que tu es plus au centre-ville.
Oui, clairement.
Le centre-ville, je vais t'avouer, c'est sûr que le français, c'est moins fort là-bas. Là. J'ai envie de dire, peut-être beaucoup de commerces, là, peut-être un commerce sur deux, là, mm-hmm. tu vas te faire aborder en anglais... en premier, avant le français. D'ailleurs, l'Office québécois de la langue française avait sorti quelques statistiques là, récemment, là, en octobre 2025. Ça disait, mettons, qu'ailleurs au Québec, 94% des commerces, on va t'aborder en français en premier. À Montréal, on est plus dans l'ordre du 61%. Fait que c'est sûr que ça reste quand même une réalité. Là. Mais je dirais que c'est vraiment de quartier en quartier. Si tu vas dans le West Island, oublie ça, là, te faire servir en français, là, pense-y même pas, là, je veux dire, c'est complètement anglais. Centre-ville, c'est un peu moitié-moitié, mais il existe quand même des quartiers à Montréal. Le plateau, ça parle français. C'est un peu une réalité de quartier, là, à mon humble avis.
Jeff, il a commencé... qui parlait en français et il a continué de parler en français. Pour lui, c'était important de se faire servir comme ça. Est-ce que toi, en tant que Montréalais, puis avec tes amis, tout ça, vous continuez de parler en français si quelqu'un vous répond en anglais?
Pour vrai, honnêtement, non. Honnêtement, si la serveuse, la personne, moi, je vais faire le switch là, en anglais simplement pour faciliter. Souvent, tu sais, ça crée comme un espèce de malaise. Là, fait, puis étant donné que moi, je me débrouille bien en anglais, je vais me plier, là, mais c'est sûr que... Ça crée un malaise un peu aussi de mon côté. Là. Je me dis, oui, c'est sûr que ça devrait parler français, mais honnêtement, je vais switcher à l'anglais de mon côté.
J'adore notre conversation parce que c'est justement là que je voulais amener les gens. 418-971-1021. Est-ce que vous auriez fait comme moi et continuer à parler en français? Au risque, et puis je l'ai raconté tout à l'heure, je vais le dire à nouveau, de vraiment pas avoir un bon service? Ou vous switchez en anglais comme Alex Laramé l'a fait? 418-971-1021. Donnez-nous votre opinion. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai continué à parler en français. Puis là, Val et moi, on a pointé sur le menu ce qu'on voulait. Alors, on voulait une brochetta parce qu'on allait là pour un petit apéro et deux drinks. Puis on a pointé sur la carte. Donc, la brochetta est arrivée peut-être après 12-15 minutes. Ben correct. Il était débordé, tout le kit. Tout est parfait. Mais on a attendu un 45 minutes additionnel pour avoir nos drinks.
Elle les avait oubliés. Tu as vraiment vu un changement dans ton type de service au moment où tu as continué de parler en français?
C'est pas. Je pense que c'est juste qu'elle avait pas compris. Puis compte tenu qu'elle avait pas compris, ben là, tu as comme laissé ça dans l'univers pour que moi, à un moment donné, je reparle. Mais quand je lui ai mentionné...
Qu'elle comprenait pas ce que tu disais.
Exactement. Quand je lui ai mentionné à nouveau... Je lui ai mentionné en français, mais là, à ce moment-là, elle a ramassé les menus. Donc, je lui ai dit en français, oui, tu sais. Puis là, tu sais, je garde tout le monde. Puis pour les gens sur Twitch, tu sais, et pour Alex sur Zoom, tu sais, j'ai dit, ouais, tu sais, je les avais pointés sur le menu. Et là, elle m'a dit, c'est beau, toujours en anglais. Je vais aller voir ça en est où. Et finalement, j'ai eu mes drinks après une heure d'attente, quand même, pour un genre de gin tonic puis un petit drink tropical. Là.
Quand d'habitude, tu l'as avant ta nourriture.
Ben, exactement. Et finalement, je l'ai eu après à peu près une heure. Mais je l'ai eu parce que finalement, c'est la serveuse qui parlait en français qui est venue nous voir parce qu'elle voyait bien qu'on n'avait pas été servi encore.
Okay.
Et là, qui m'a mentionné, est-ce que vous avez un problème? Ben, j'ai dit, ouais, j'ai pas reçu encore mes drinks. Quels étaient vos drinks? Puis là, tu sais, je me souvenais vaguement des noms parce que c'était des drinks spéciaux qu'ils faisaient là. Elle a dit, c'est beau, elle a dit, je vous apporte ça.
Fait que c'était pas un oubli, c'était plutôt un malaise de la part de la serveuse de pas avoir compris, puis elle sentait pas justement dans le confort de redemander. C'est ça ton point?
Exactement. Okay. Elle se sentait pas confortable avec ça. Et là, ben, est arrivé le fait que finalement, tu sais, le commerce a été super bon, là. Ils nous ont amené nos drinks, puis ils nous ont pas fait payer. Fait que je peux pas chialer sur comment la situation s'est conclue, parce que je trouve que le commerçant super bien agi en disant « Hey, vous savez quoi? Vous venez de vivre une situation embarrassante. Je vais vous les payer vos drinks, il n'y a pas de trouble. » Puis là, finalement, on a bu nos drinks, puis on est parti parce qu'on s'en allait au resto après, puis il fallait retourner à l'hôtel, se laver, tout le kit. Mais c'est ça, somme toute, ça s'est bien terminé. Mais ce qui me frappé, c'est que sur la terrasse, il y a peut-être quoi, trentaine de places, c'était un petit resto. Tout le monde parlait en français. Mais la serveuse était unilingue anglophone.
C'était la seule qui parlait anglais, puisqu'elle n'était pas capable de se servir autre qu'en anglais. Ben, tout le monde s'ajustait, c'est ça. Au 88-971-1021, les gars, il y a beaucoup de commentaires.
Ah,
ça va dans tous les sens.
Vas-y, on fait une dame petit résumé.
Il y en a qui disent, hey, moi, j'aurais continué de parler en français aussi, même si je parle anglais. Quelqu'un qui dit, je parle très mal en anglais, donc j'aurais pas eu le choix de continuer de parler en français, moi aussi. Quelqu'un qui dit, moi, c'est sûr que si la personne parle juste anglais, je vais switcher à l'anglais. et c'est vraiment quelqu'un qui défend ça. Là, genre, mm-hmm. je dois m'adapter à la serveuse qui est devant moi. Ça va dans tous les sens, Jeff. Il y en a qui, par principe, switcheraient en anglais, mais en même temps, ils sont comme coltaillés entre les deux. Moi, je te dirais, j'ai le même réflexe qu'Alex. Alex qui est à Montréal, c'est de switcher en anglais si jamais le serveur ou la serveuse parle juste en anglais. Mais ça me fait réfléchir aussi sur le fait de tenir un peu plus notre bout au niveau du français. Ben oui. Mais de façon respectueuse quand même. Parce que je me dis aussi, en ce moment, on a tellement de pénurie de main-d'œuvre. Ça me rappelle le resto qui était à Québec, là, puis c'était des gens. Je me demande s'ils n'étaient pas hispanophones. Puis ils avaient essayé d'implanter un resto qui était délicieux, mais le menu n'était pas tout à fait à point au niveau français. Puis il y avait des gens qui avaient fait un tollé, puis il y avait de l'intimidation. Puis je trouvais que c'était trop, ça.
Mm-hmm. Non, en effet, mais tu sais, j'ai juste tenu mon bout parce que j'entends beaucoup parler. Puis là, justement, je vais te passer la poque, Alex, de Montréal qui sent glissé. Mm-hmm. Puis là, j'étais à Montréal, puis je me suis dit, « Hey, sais-tu quoi? Je vais tenir mon bout parce que je vais tenir au français à Montréal. » Je suis pas à Toronto, je suis à Montréal, fait que je vais tenir à ma langue française. Pour régler le bill, je l'ai fait en anglais parce que là, il fallait qu'on sacre notre camp, on aurait été en retard à notre autre resto. Fait que là, je vais prendre la solution la plus simple. Mais pour le reste, j'y ai tenu. J'ai-tu été un peu trop démagogue, Alex Laramain?
Non. Non, non, je pense pas. Je pense que mon père aurait fait exactement comme toi. Là. Mon père, il rentre dans des commerces, il va parler en français, puis même si la personne continue à y parler en anglais, il va quitter, là, tout simplement. Là. C'est vraiment genre mon père. Je pense que tu as bien fait, mais c'est un point aussi qu'à Montréal, là, moi, je l'ai vécu là, quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé dans du service à clientèle, dans des magasins. Puis je peux vous dire qu'une personne qui parle uniquement anglais va se faire embaucher sans problème, même s'il y a une clientèle quand même francophone. Mm-hmm. Si tu parles uniquement français, j'ai l'impression que ça joue contre toi. Il faut que tu parles anglais s'il y a des clients anglophones. Moi, je travaillais près de Ville-Mont-Royal, près de Parc Extension. La moitié des clients parlaient français, la moitié des clients parlaient anglais. Puis c'est un critère d'embauche. Là. Si tu ne parlais pas anglais, tu ne pouvais pas te faire engager dans ce magasin-là. Tu ne pouvais pas servir la moitié des gens. Mais j'ai eu un collègue qui parlait, tu sais, il baragouinait du français. Là. Il faisait l'effort. On va lui donner, il faisait l'effort, mais pas un français vraiment parfait. Puis il parlait majoritairement anglais, puis il s'est fait engager sans problème. Fait que, oui, c'est une certaine réalité quand même à Montréal, mais comme je le disais, c'est beaucoup de quartier en quartier, mais oui, l'anglais prend de l'expansion à Montréal, ça, c'est indéniable.
Oui, en effet, c'est ce que j'ai remarqué aussi, là, sans l'ombre d'un doute, là, que ça parlait beaucoup, beaucoup anglophone là, au centre-ville de Montréal. Ceci dit, le restaurant que je suis allé le samedi soir, les serveurs et serveuses étaient parfaitement bilingues, parlait très bien en français, puis ça a été une expérience fantastique. Il y a Pierre-Luc qui nous écrit, c'est vrai, à Charlebourg, les Philippines du McDo ont pris le français en genre 2 mois. Donc, les Anglo de Montréal font aucun effort. Ça, j'avoue à Alex, puis je terminerai là-dessus, qu'au niveau de l'effort, compte tenu qu'on peut se débrouiller en anglais en tout temps à Montréal, je pense que ça vient justement faire en sorte que l'effort est moins là d'apprendre la langue.
Ah, ben moi, j'en connais. Là. Ma copine a des amis qui sont plus du côté anglophone, qui ont des parents. Tu sais, c'est des Québécois. Ils sont nés au Québec toute leur vie. Ils restent dans le West Island. Ont jamais appris le français, ne veulent pas apprendre le français parce qu'ils n'en ont pas besoin. C'est ça la réalité. C'est ça, le PDG d'Air Canada. PDG d'Air Canada, il y a 5 ans, il a nommé une réalité qui est très vraie. Tu peux vivre à Montréal sans français. Tu n'as pas besoin de l'apprendre. À la limite, pourquoi tu te forcerais quand tu peux aller n'importe où, tu vas te faire servir en anglais, tu n'as pas de problème. Fait que oui, c'est quand même une réalité qu'il y a des Anglos qui sont là depuis des générations même, qui sont des Québécois, mais qui tout simplement n'apprennent pas le français parce qu'ils n'en ont pas besoin. Quand tu restes à Montréal, tu peux te faire servir en anglais sans problème.
En effet, donc si on veut sauver Montréal des Anglais, non, c'est pas vrai, là, je partirai pas une grosse polémique. Mais n'hésitez jamais à parler français, c'est une belle langue qu'on a, c'est une richesse. Puis je pense justement, quand on est dans notre belle province, qu'on peut et on doit se faire servir dans notre langue maternelle. Alex Laramain, merci beaucoup de nous avoir raconté la réalité de Montréal via mon expérience et d'être resté avec nous.
Ah, toujours un plaisir.
Cool, merci. On se parle demain. On va se parler à chaque jour des séries de la Ligue nationale. Des fois, ça sera juste un petit 3-4 minutes vu que le Canadien ne joue pas. Mais écoute, c'est la frénésie, Alex.
Ah oui, puis il ne peut pas parler de ça avec moi. Fait qu'Alex, on a besoin de toi.
Je vais être là. Je vais
nos
te sauver,
auditeurs Pascal. Et auditrices se lèvent le matin et disent « J'ai assez hâte d'entendre Jeff Fortin et Alex Laramain même parler des séries de la Ligue nationale. »
Ça texte encore. C'était pas assez long.
C'est ça, exactement.
Ah, bon, voilà.
Hey, salut Alex, à demain.
Salut.
Alex Laramain, excellent journaliste au 99.5 Montréal, notre chroniqueur sportif également. Puis je l'avais gardé avec nous justement pour avoir son œil de Montréalais. Très intéressant qu'il nous dise que justement, ce que Michael Rousseau a dit, c'est entièrement vrai. il y a des Québécois qui sont nés au Québec, qui ont toujours parlé anglais, qui vivent en anglais, puis qui apprendront jamais le français.
Tu sais, je suis pas mal. Il y a vraiment un point que j'arrive pas à me positionner, Jeff, là, dans cette discussion-là. Puis je me questionne beaucoup sur le fait de l'employabilité. Tu sais, qui a dit si tu parles que français, ça va être dur d'être employé. En même temps, je comprends là, l'économie de la chose, je comprends le contexte pour un employeur avec les touristes et tout ça. Mais d'être un peu disqualifié au profit de quelqu'un qui va maîtriser cette langue anglophone-là, je sais pas, je me situe pas à 100% en accord avec ça.
Ben moi non plus.
Même si je comprends là, qu'on avance puis que ça ouvre bien des portes puis il y a un changement là, mais si je m'en vais ailleurs dans le monde puis je me mets juste à parler en français, mais je pense que c'est plus moi qui va être mal vu versus l'employé qui me répondra pas en français.
Mais c'est fou de savoir qu'au Québec, il y a un préjudice défavorable envers les francophones à Montréal. T'es francophone, tu parles pas anglais parce que quand je vais nommer Alex, là, t'as resté dans le quartier Rosemont, puis c'est full unilingue français. Puis là, t'as fait tes cours d'anglais à l'école comme tout le monde, mais tu le baragouines pas bien. Tu vas arriver aller travailler dans un commerce au centre-ville, puis on va te dire non. Mais à l'inverse, tu parles juste anglais, on va te dire oui.
Puis c'est là le point qui blesse, je trouve.
Ben
là,
oui.
Au profit de quelqu'un unilingue anglophone, quelqu'un unilingue francophone.
Tellement.
Sera pas choisi dans ce qu'on nous donne comme situation là, en ce moment, autant par texto que par Alex. Puis en même temps, on peut pas s'asseoir sur notre steak en disant il faut juste parler français. Puis je la veux, cette protection-là de la langue française. Là.
Mais c'est ça. Non, c'est un problème qui est complexe, qui n'est pas unisolution.
Quelqu'un qui dit je comprends ton point, Pascal, partout dans le monde où je m'ajuste avec un touriste américain, je m'ajuste, mais pas avec un Québécois.
Oui, c'est ça. C'est ça qui fait mal. C'est de dire je m'ajuste dans ma propre province à parler anglais, alors que c'est la langue française qui est notre richesse, qui est notre langue maternelle, puis surtout notre langue officielle. Dans un instant, Boulevard 102A, ben, on va parler de Donald Trump. Pourquoi? Parce que on sait plus trop ce qui se passe avec l'Iran. Vendredi, Pascal, on commence l'émission, on dit « Le détroit d'Ormuz est ouvert! » Il a fermé pas longtemps après. Là, Donald Trump a envoyé J.D. Vance négocier aujourd'hui au Pakistan, mais l'Iran dit « Je vais pas négocier. » Comment qu'on va régler ce conflit-là? Qu'est-ce qui se passe? On a un excellent chroniqueur ici à Boulevard 101, Luc Laliberté, qui va nous expliquer ceci.
Si lui, il comprend plus, parce que j'ai l'impression que les analystes, même eux, sont mêlés en ce moment.
Ah, ben je pense que tout le monde est mélangé.
Puis tout ça parce qu'il y en a qui soufflent le chaud et le froid en politique.
Ah oui, j'écoutais des reportages partout en Europe en fin de semaine aussi, puis tout le monde est mélangé. Est-ce que Luc est mêlé comme nous? On va le savoir dans quelques instants, Boulevard 102, l'émission d'Angers.
Le premier ministre, Mark Carney, avait déclaré qu'il serait jugé sur les prix à l'épicerie. Mais de nouveaux chiffres démontrent que le Canada affiche l'inflation alimentaire la plus élevée des pays du G7.
Ferme la radio.
Je pensais que ça allait être différent avec Carney.
Moi aussi, c'est vraiment rendu cher.
Avec les libéraux de Mark Carney, c'est pareil. Il n'y a rien qui a changé.
Autorisé par l'agent principal du Parti conservateur du Canada.
À Québec, un Ford, ça se
ce printemps, profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. Ce mois-ci, offrez-vous le VUS familial parfait pour les vacances d'été, le Ford Explorer pour seulement 129 $ par semaine en location 60 mois. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Autocollection.
Chez Desharnais, ce sont de vrais mécaniciens de famille. Des gens de confiance de génération en génération. Et ça, c'est juste parfait. Parfait pour la mécanique, pour les pneus. En fait, pour un véhicule en santé.
Du 20 avril au 3 mai, obtenez un rabais instantané jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Toyota Tires sélectionnés. Une offre exclusive, .s. Toyota Tires, pour un plus haut degré de sécurité. Détails et rendez-vous en ligne sur desharnais.ca.
Desharnais, c'est juste parfait.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Depuis 80 ans, le groupe Germain est synonyme de confiance. Et chez Germain-Nissan Donnacona, ça se ressent à chaque visite. Durant l'événement Mettez-nous au défi, louez le Nissan Rogue 2026 pour 105 $ par semaine, zéro comptant, location 36 mois. Ou encore le Nissan Kicks 2026 à partir de 88 $ par semaine, location 60 mois, zéro à compte. 80 ans d'expertise, ça fait une différence sur votre expérience. Germain-Nissan Donnacona, c'est le seul concessionnaire Nissan ouvert le samedi.
L'actualité présentée par MRL Courtier Hypothécaire. Dans un marché en constante évolution, comparez vos options. Faites confiance aux experts. Ils connaissent leur affaire. MRLHypothèque.ca.
Boulevard. Boulevard 102.1. Ce pas à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard.
On en jase. À Boulevard 102.1, Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
13h17, vous étiez plusieurs à réagir sur la conversation. L'anglais à Montréal, le service unilingue anglais, c'est au 418-971-1021 pour interagir. Je vous le rappelle, 418-780-1021 si vous décidez de lâcher un petit coup de fil. BLVD.fm, notre web radio, vous pouvez réécouter les meilleurs moments également de l'émission. Ça se retrouve à la fin de l'émission. BLVD 102.1 disponible sur l'App Store, Google Play Store. C'est gratuit. Ça vous permet de nous écouter. Tout comme avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et on arrive. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Les caucus s'y retrouvent après chaque émission, notamment le caucus avec Emmanuel Latraverse aujourd'hui. Je l'ai. Ça fait une couple de fois que je la traverse au lieu de la tendresse en ligne. D'après moi, je viens d'enlever ce mauvais pli que j'avais. À la météo, bien, c'est une journée un petit peu plus froide aujourd'hui, 2 degrés, alternance de soleil et nuages, mais la température augmente plus la semaine avance. 5 degrés généralement ensoleillés pour demain, 11 degrés alternance de soleil et nuages pour mercredi, et à plus long terme, c'est du 12 et du 14 degrés pour jeudi, vendredi, et il n'y a pas de précipitations, donc on est vraiment arrivé au printemps. Avant qu'on parle du conflit Iran, États-Unis, Israël, Liban, bref, ce qui se passe au Moyen-Orient avec Luc La Liberté. Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
Bien, c'est vraiment un bulletin à saveur essencerie, là, pétrole, oui, hein? Aujourd'hui, sur plein de facettes. D'abord, le prix de l'essence, c'est aujourd'hui que la taxe de 10 cents le litre est suspendue, ça veut dire sur l'essence régulière. Mm-hmm. Et ça, jusqu'en septembre, on veut faire un peu souffler le portefeuille des automobilistes. C'est Ottawa qui a enlevé ça jusqu'en septembre prochain. On n'a pas mis de côté le fait qu'on pourrait l'extensionner, cet enlèvement là, de taxe d'assise sur l'essence. Puis sur le propane aussi, puis sur le diesel, on est vraiment là-dedans là, en ce moment. Diesel, c'est un 4 cents le litre de moins. Étrangement, à Québec, ça coûtait plus cher dans les derniers jours mettre de l'essence dans la voiture qu'à Montréal. Il y a, pourquoi je dis la thématique pétrole, essence en ce moment, puis aujourd'hui, c'est que les tensions au Moyen-Orient, bien, ont fait grimper hein, le prix de l'énergie de plus de 21,2%. Et ça, ça contribue à la hausse de l'inflation au pays. Hausse de l'inflation qui a été constatée, là, on dit de 2,4% d'augmentation en mars au Canada. Ça sortait aujourd'hui selon le rapport de Statistique Canada. Ça vient aussi au provincial avec Christine Fréchette, qui est première ministre à la tête de la CAQ et qui, elle aussi, veut s'attaquer un peu au prix de l'essence en ce moment, mais on n'a pas beaucoup de détails. C'est comme son conseil des ministres qui sera annoncé demain. On n'a pas beaucoup de détails, mais ce qu'elle dit, c'est qu'il y aura une continuité, pas nécessairement énormément de nouveautés. J'ai l'impression qu'on veut laisser de la place aux ministres actuels pour terminer leur mandat, du moins en vue des prochaines élections. Jeff, on pourrait ne pas être surpris de tout ça. C'est plus Bernard Drainville là, où on se questionne à savoir quelle place il va y avoir. Normalement, elle lui doit une place de choix sans être obligée quand tu fais une course comme ça.
Avec 42 % des appuis. On parle beaucoup du ministère de l'Économie et de l'Énergie pour Bernard Drainville.
Début d'année canon pour les mises en chantier à Québec. On a goûté un peu à ça en fin de semaine, mais là, on continue sur cet axe, cette fois-ci, de construction résidentielle. Ça faiblit pas à Québec. Mises en chantier qui ont plus que doublé dans le début de l'année comparativement à la même période en 2025. C'est ce que rapporte Radio-Canada. 1380 mises en chantier d'habitation confirmées au premier trimestre de 2026. commerce. Et c'est toujours selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Je peux te parler aussi de l'armée canadienne. On annonce son plus fort recrutement de militaires en 30 ans. C'est porté par des meilleures conditions de travail, système de candidature simplifié. Et le Journal de Québec affirme que c'est 7310 personnes dans la dernière année qui ont été recrutées. Hausse de femmes aussi. Vraiment d'autres données, là, au moins dans les 30 dernières années. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Possible grève chez Air Canada début juillet. C'est toujours avec la convention collective. On en reparle dans un instant. Et dans les dernières minutes, ce qui est sorti aussi, c'est une nouvelle du côté des États-Unis pour le directeur du FBI. En fait, il poursuit The Atlantic. Pourquoi? Eh bien, Cash Patel, que vous connaissez comme directeur du FBI, a mentionné que le magazine The Atlantic a publié un article qui allègue notamment qu'il a un problème de consommation d'alcool. Il réclame 250 millions de dollars américains en dommages et intérêts et dénonce un travail de diffamation, d'agression et de calomnie.
Et justement, pour en parler avec nous et du conflit au Moyen-Orient, on a Luc La Liberté, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair. Si vous ne suivez pas, allez le suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux. Luc, quoi penser de cette poursuite du premier chez le FBI?
Écoute, la première des choses, c'est presque triste et regrettable d'avoir à l'introduire comme ça, mais c'est plus ou moins étonnant. C'est que ce genre de problème chez Cash Patel était connu. Et si les gens se souviennent bien, quand Trump a effectué ses nominations après l'élection, donc on nous indique éventuellement qui on va asseoir dans chaque fauteuil, qui va être ministre ou secrétaire. Et il y a plusieurs des membres de l'administration Trump qui, au plan personnel, avaient des histoires plus controversées et qui, en plus, n'avaient pas l'expertise, les compétences nécessaires pour occuper les responsabilités qu'on leur confiait. Et pour Cash Patel, il était sur cette liste de gens dont on le disait, c'était beaucoup plus pour sa loyauté qu'on est allé le chercher que pour ses compétences personnelles. Mais il y avait déjà eu une histoire qui suivait aussi Cash Patel. Ce que The Atlantic a fait, parce que c'est intéressant que Cash Patel réponde comme ça en disant « Écoutez, on y va avec une poursuite de 250 millions de dollars », c'est, je vous invite, si vous, bien sûr, si vous êtes familier avec l'anglais, à aller lire l'article de The Atlantic sur Cash Patel. On est allé chercher 12 de sources, dont certains agents actuels du FBI et d'anciens membres du FBI qui sont récemment à la retraite, et ce sont eux qui viennent alimenter l'article de The Atlantic, dans lequel essentiellement ce qu'on dit, c'est Cash Patel, il est paranoïaque, il est confus, il n'a confiance en personne, et très souvent, il lui est arrivé de tirer des conclusions sur des événements avant même qu'on ait terminé de lui fournir les faits. Et je pense entre autres à l'assassinat de Charlie Kirk. Et ce que raconte The Atlantic en lien avec la consommation d'alcool, c'est qu'on a eu souvent, semble-t-il, à réveiller Cash Patel, qui était en lendemain de veille ou qu'il était sous, mais au point de s'endormir, de perdre connaissance. Et on a même fait appel une fois à des instruments que le SWAT utilise pour défoncer des portes, pour accéder à son bureau. On était inquiet à ce point. Donc, habituellement, The Atlantic, je dis parfois le vénérable The Atlantic, c'est un magazine sérieux, fouillé, qui ne s'avance pas en terrain sur lequel on n'a pas de preuves. Ce à quoi s'expose Cash Patel, en y allant d'une poursuite de 250 millions, c'est qu'on dévoile plus de faits que ce que The Atlantic a dévoilé. Donc, est-ce que Cash Patel va aller jusqu'au bout de sa démarche? Lui dit c'est de la diffamation, c'est une forme de harcèlement. Je pense qu'il va en avoir pour son argent, en tout cas, parce que The Atlantic ne s'aventure pas en terrain glissant habituellement. C'est du vrai journalisme, du journalisme d'enquête. Et habituellement, la réputation du magazine, elle est à toute fin pratique irréprochable.
Oui, c'est ça. Puis avec une vingtaine de sources qui disent la même histoire, bien c'est
la même chose.
Exactement, c'est clair que ça joue à son désavantage. Luc, conflit au Moyen-Orient. Vendredi, on ouvrait le détroit d'Hormuz. Il était fermé aussitôt qu'on disait qu'il était ouvert. Là, on a envoyé J.D. Vance au Pakistan pour dire « Va négocier avec l'Iran », mais l'Iran dit « Je me rendrai pas, moi, au Pakistan, négocier. » Donald Trump est en train de l'échapper.
Écoute, je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé le qualificatif précaire pour décrire cette situation-là, mais on le voit. C'est vrai sous l'administration Trump, c'est vrai depuis le début de l'administration Trump, mais entre le moment où je vais me coucher le soir et le moment où j'enregistre mes capsules ou que je commence des collaborations dans les médias, C'est fou ce que le monde a changé parfois. Je dors 6 à 7 heures par nuit. C'est fou ce que le monde a changé en 6 à 7 heures.
Arrête de dormir, Luc Laliberté, voyons donc!
C'est vraiment, écoute, le gars est négligent. Il s'accorde un 6 heures de sommeil. C'est complètement irresponsable. Donc, tout ça pour dire, effectivement, les informations qu'on avait, puis c'est difficile de suivre Donald Trump parfois. Dans un premier temps, on dit, nous, on a offert une bonne entente à l'Iran. J.D. Vance va encore mener la délégation, c'est ce que tu venais de mentionner. On s'en va au Pakistan, puis on pense qu'on a des chances de réussir soit à établir les bases d'un traité de paix, ou au moins à étirer le fameux cessez-le-feu. Donc, on se dit, au moins, on va reconduire le cessez-le-feu. Donc, on ne va pas vers une escalade. Entre le moment où il dit ça et tôt ce matin, on apprenait qu'on avait pris possession d'un navire iranien qui avait eu des tirs qui avaient été changés. Le président, maintenant, qui lui-même dit, moi, je pense que le cessez-le-feu, il n'y en aura pas. Et l'Iran qui, je pense qu'on peut comprendre, et ce n'est pas une sympathie pour le régime iranien, il faut être très clair, mais l'Iran disait, on n'est pas sûr qu'on va aller au Pakistan parce que les fois où on a négocié sérieusement, les Américains en ont profité à chaque fois pour mener des opérations surprises en territoire iranien. C'est le cas du conflit actuel. Il faut rappeler qu'on était à la table de négociation et même les négociateurs américains disaient « on va dans la bonne direction ». On allait dans la bonne direction, mais ça n'a pas empêché quelques heures plus tard qu'on frappe l'Iran et c'est le début du conflit dans lequel on se trouve toujours. Donc, on dirait une chatte qui perd ses petits, c'est une vieille expression, hein, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Est-ce que les Américains, maintenant, ont les moyens de l'escalade? Le régime iranien, il est déjà affecté, il est au pied du mur, on est dans nos derniers retranchements. Militairement, on est diminué, mais on contrôle encore le détroit d'Hormuz. C'est le principal levier dont on bénéficie. Si les Américains vont vers l'escalade, ce qu'il faut maintenant envisager, si on veut prendre le contrôle d'îles autour hein, du détroit, là, ou dans le détroit, c'est de mettre en jeu plus de vies de soldats américains. Ouais. Est-ce que les Américains sont prêts dans ce qu'on va maintenant faire s'il y a une prochaine étape, là, militairement parlant? Est-ce qu'on est prêt à engager des vies américaines? Parce que c'est ça que le président Trump va devoir justifier auprès de la population américaine.
Ça va être difficile. On voit que c'est là où le bas blesse. Nous, on apprenait aujourd'hui qu'on est en recrutement extraordinaire. Le plus grand nombre de soldats canadiens, en fait, maintenant enrôlés dans l'armée canadienne depuis les 30 dernières années. On est souvent en conjecture, les deux, on travaille ensemble, les deux pays. Est-ce que ça sera ça encore? Puis pendant ce temps-là, Luc, la Chine semble être réellement alliée avec l'Iran. On apprenait qu'il y aurait eu rumeur d'armement puis de déploiement d'armement en pleine nuit à un moment la semaine passée. T'sais, tu vois que les alliés se placent aussi, mais de façon assez importante. Puis l'armement, c'est ça qui manquait à l'Iran pour continuer de leur côté.
Voilà, et c'est important ce rôle-là de la Chine parce que la Chine, à court terme, perd aussi dans le conflit. C'est pas une bonne chose à court terme. Je pense que la façon de voir du côté chinois, c'est quand on prend un peu de perspective. Et chaque fois que les Américains sont abattus, chaque fois que les Américains sont dans un bourbier, chaque fois que les Américains laissent une place libre à l'échelle planétaire, la Chine à moyen et à long terme gagne de ce conflit-là. Donc, il y a des pertes à court terme, c'est clair, mais c'est pas une démocratie. On n'a pas de bilan à présenter pour les prochaines élections. On n'est pas en campagne électorale. Et dans un régime autoritaire, on peut se permettre d'attendre un peu. Et donc, ce qu'on voit comme intérêt de la part de la Chine, soutenir l'Iran, on peut le voir vraiment comme une potentielle alliance, mais on peut le voir aussi simplement comme c'est une résistance accrue qu'on offre aux Américains. Et à moyen et à long terme, ça sert les intérêts de la Chine. Avec la Russie, je l'ai déjà mentionné, ce sont probablement les deux pays qui, au moment où on se parle, vont tirer le plus de profit de ce conflit-là.
Autre défaite pour Donald Trump. Aujourd'hui, il doit commencer à rembourser les tarifs aux entreprises, justement, qui font tout simplement suivre le courant de la décision de la Cour suprême. C'est échec par-dessus échec. Là. Ça va vraiment pas bien. Là. Puis là, je veux pas paraître pour un anti-Trump. C'est juste que je regarde les faits. Puis ça déboule du mauvais sens pour Donald Trump.
Et la première chose, j'aime bien que tu précises, c'est pas parce que je suis anti-Trump. On ne réalise pas à quel point la présidence Trump, pas tout le temps en tout cas, je pense, à quel point la présidence Trump, elle est hors norme. Et moi, dès le départ, quand il a pris les tarifs douaniers pour les appliquer mur à mur comme il le fait, mon premier réflexe, c'est l'enseignant qui prend le dessus, c'est « Oups, ce serait peut-être intéressant qu'on relise la Constitution parce que les tarifs, la manière dont il les utilise, Ce pouvoir-là est entre les mains du Congrès. Et moi, c'est ce qui me fascine de cette présidence-là, c'est qu'on teste le système comme jamais auparavant. Donc, la Cour suprême le rappelait à l'ordre. Le justificatif que vous aviez pour mettre les tarifs, ça ne tient pas la route. Vous devez maintenant, donc c'est sous-entendu, rembourser les gens. Et c'est une bonne nouvelle, puis en même temps, ce n'est peut-être que la première étape d'une bataille, de nombreuses batailles. Donc, on a ouvert le portail aujourd'hui. C'est 130 milliards de dollars qu'il faut retourner aux compagnies américaines qui ont été lésées, et elles seraient approximativement au nombre de 300 000. À l'échelle de l'histoire des États-Unis, c'est du jamais vu comme opération. Et moi, je me souviens très bien qu'après le jugement de la Cour suprême, je ne sais pas combien de chroniqueurs économiques ou de chroniqueurs politiques aux États-Unis disaient « Mais ça va être le bordel, ça va être complètement fou. » Ça l'est un peu, mais je suis ravi si je pense à ceux qui ont de l'argent à récupérer, mais d'ouvrir ce portail. La décision, c'est fin février 2026. Au mois d'avril, on ouvre le portail et ça a l'air relativement simple. Il s'agit pour une compagnie d'acheminer par voie électronique sa demande de remboursement. Ça a l'air terriblement simple. D'abord, première chose, le délai de traitement de votre demande, c'est 60 à 90 jours. Donc, on parle de quelques mois d'attente. Mais ce que j'ai hâte de voir, et c'est peut-être là où je mentionnais tout à l'heure, c'est la première bataille d'une série de batailles, c'est qu'il y a comme encore un flou autour de l'application des critères qu'on va utiliser pour justifier ou appuyer votre remboursement. C'est pas tout le monde qui demande un remboursement qui va l'obtenir parce que c'est complexe la gestion des tarifs douaniers. Donc, sortir de là avec un remboursement, ça va déjà être quelque chose. Il faudra voir aussi si on n'a pas intérêt, et là je fais vraiment la mauvaise langue, est-ce qu'on n'a pas intérêt à être particulièrement méticuleux au sens où on va laisser traîner ou étirer ces délais-là. Mais donc, pour les gens qui ont été lésés, grosse décision, le portail arrive très rapidement, soyons positifs. J'ai hâte de voir. On dit souvent que le diable est dans les détails. Moi, je pense que c'est ce qui attend les compagnies qui attendent un remboursement.
Luc Laliberté, merci infiniment d'avoir participé à l'émission. On en jase. Je te souhaite une bonne nuit de sommeil ce soir parce qu'il doit y avoir des choses qui bougent encore demain.
Bonne fin de journée aux auditeurs. Bonne fin de journée à vous.
Salut Luc, merci beaucoup. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine pour nous et également producteur des capsules La Liberté en clair. Allez le suivre sur les médias sociaux. Pascal, il y a quelque chose qui bouge également, toujours au Québec, c'est les relations de travail.
Oh, puis beaucoup, hein?
Beaucoup. Et là, on a appris que les travailleurs du gouvernement, donc nos fonctionnaires, vont pouvoir avoir 0,11% d'augmentation additionnelle en raison de l'inflation. Alors, on aura notre spécialiste Marc Rangé dans quelques instants à l'émission parce que je me pose la question si ce n'est pas une nouvelle façon de négocier, de faire, qui va s'implanter un peu partout au Québec.
Est-ce que ça ferait du bien? La question se pose.
C'est ça. Ah. Puis est-ce que le privé pourrait faire ça? Parce que, tu sais, c'est des profits. T'sais? Donc, c'est ça que je veux voir. Puis aussi, Air Canada, il y a encore une menace de grève. Cette fois, c'est les machinistes.
Pour juillet. Puis en même temps, je disais ça, puis je me dis, je comprends un peu.
Ben oui, parce qu'Air Canada, les employés ont fait beaucoup de sacrifices lors de la faillite en 2003.
Et ensuite, là, pendant la COVID, et ensuite, pendant ci, et ensuite, pendant ça.
Mais là, c'est 1 milliard de profit. Ouais, fait que c'est ça. On parle de ça avec Marc Rangé. Dans quelques instants, on en jase. On en jase sur Boulevard 102.1. Il est précisément 13h40. Dans quelques instants, on va s'entretenir avec notre spécialiste en relations syndicales, Marc Rangé, concernant un conflit possible à Air Canada et aussi une augmentation de salaire en raison de l'inflation, augmentation additionnelle pour les fonctionnaires du gouvernement. Mais en attendant, vous dire que ce soir, c'est le deuxième épisode du podcast des grands événements de Québec avec Denis Gravel. Et c'est très intéressant, Pascal, parce que ce soir, 19h, c'est le Festival d'été de Québec avec le journaliste du Journal de Québec, Cédric Bélanger, qui couvre l'événement depuis des lunes. Là, moi, je pense que je me rappelle pas de pas avoir vu un texte dans le Journal de Québec sans que ce soit Cédric Bélanger qui l'écrive sur le Festival d'été. Alors, on va se plonger dans l'histoire du Festival d'été. Ça a été d'abord lancé comme un petit festival ambulant gratuit. Puis là, ben, c'est rendu que les plus grandes stars de la planète s'y retrouvent année après année, été après été sur les plaines. Moi, je me souviens, mon premier festival d'été, c'était à la place Georges V.
Ah ouais,
puis le gros spectacle, c'était Richard Séguin.
Hey, quand même, c'est pas rien.
J'avais 15 ans.
Wow! Fait
que t'imagines.
Dans ces grosses années,
ah ouais, dans
plus.
Ces grosses années, j'avais vu Zébulon aussi. Hein. C'était la première partie
c'était bon,
de Richard Séguin.
C'était avec tes parents?
Non, ma gang, gang d'ado. Je pense que ça coûtait une affaire comme 15 ou 20 piastres un macaron pour la durée du festival. Fait qu'on s'achetait ça et on allait chiller en ville.
Ça devait être dans tes premières sorties juste en gang.
Oui,
aussi.
Mes premières sorties juste en gang où on se cachait une petite bière de route dans nos
poches.
Ah
oui, ça aussi. Puis,
ben oui, à 15-16 ans, nous autres, on était des illégaux dans Basse-Ville de Québec. Le podcast est une présentation de Climatisation Paquette pour la vente de produits Mover, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience climatisationpaquette.com. On va rejoindre à l'instant Marc Rangé, notre spécialiste en relations de travail pour discuter de deux sujets concernant justement les relations de travail. Marc Rangé, comment vas-tu?
Salut à vous deux, ça va très bien.
Cool. Marc, je me demandais, est-ce que ça va être une nouvelle façon de ficeler les conventions collectives? Parce qu'on apprend aujourd'hui que justement les employés du gouvernement, puis là j'ai les fonctionnaires, mais c'est autant les infirmières que les employés dans le domaine de l'éducation, vont avoir justement 0,11% additionnel d'augmentation salariale par rapport aux 2,6% qui étaient planifiés en raison de l'inflation. Puis honnêtement, je trouve ça intelligent comme façon de faire.
Oui, mais ça a été négocié lors de la dernière ronde de négo, là, en fin 2023-2024. Et c'est une formule qui s'appliquait pour 3 années du contrat de travail. Et c'est une formule, donc, qui protège jusqu'à un certain point sur l'inflation. On voit ça dans bien des conventions collectives où, surtout dans les périodes qui suivent les périodes de forte inflation, mm-hmm. où les syndicats vont tenter de protéger leurs membres en essayant de négocier, parce que c'est pas un automatisme, là, mais une formule de protection du pouvoir d'achat. Fait que dans ce cas-ci, il y avait un 2,6% de garantie. Et il y avait une possibilité d'aller 1% de plus si jamais l'inflation allait jusqu'à, évidemment, donc 3,6%. Mais l'inflation a été, fait que si je résume, là, augmentation de salaire de 2,6%, l'inflation a été à 2,71%. Fait que les gens ont une protection de 0,11%. Mais ça a été négocié il y a 3 ans. Et ça s'applique là en cours de convention collective. Et le gouvernement, à l'époque, s'était senti dans cette formule-là qu'il pouvait se permettre d'avoir un certain jeu, mais pas aller au-delà d'une certaine formule. Mais dans ce cas-ci, je dirais que l'inflation a été assez bien prévue pour que le gouvernement n'ait pas trop à débourser. 0,11%, c'est pas énorme. Là.
Mais Marc, comment on explique que souvent dans ces conventions collectives-là, on est tout le temps rendu, c'est chou depuis X nombre d'années. Pourquoi est-ce qu'on laisse tellement l'employé comme étant acquis de côté, qu'on ne travaille pas pour faire rayonner le fait qu'on est content d'avoir des gens qui travaillent dans notre entreprise versus les faire patienter puis finalement les fâcher un moment?
Oui, mais dans ce cas-ci, oui, la négociation avait été très longue. Mais dans le fond, quand elle s'est réglée, ils ont prévu avoir une mécanique d'ajustement des salaires. Mais tu as raison que dans bien des cas, ce qu'on voit, c'est que les conventions sont échues. Puis l'employeur n'est pas très pressé de négocier. Fait que pendant ce temps-là, les gens peuvent être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. En période de forte inflation, quand tu n'as pas d'augmentation de salaire, ça fait très, très mal. Fait que c'est pour ça qu'on a vu la réapparition de ces formules-là pour venir compenser un peu pendant la durée des contrats de travail, quand ils ne sont pas en négociation, venir compenser un peu les fortes inflations.
Marc, à tort ou à raison, lorsqu'on parle de négociation salariale, souvent on va dire « Ah, les maudits syndicats, ils vont chercher tout, puis ils ne pensent pas à la population quand c'est le cas du gouvernement, puis ils ne pensent pas aux entreprises quand c'est dans le cas du privé. » Mais là, les employés d'Air Canada, ce que je comprends, c'est qu'ils en ont fait des sacrifices. 2003, faillite de 13 milliards de dollars. On signe des conventions collectives de 10 ans à la suite de ça. On fait en sorte que l'entreprise se remette sur pied. L'entreprise, en 2026, est sur pied avec 1 milliard de profits pour la prochaine année. Mais là, grève des pilotes, grève des agents de bord, et là, c'est les machinistes qui veulent partir en grève. Y a-tu de quoi qui cloche avec Air Canada?
Bien, ce qui cloche, c'est que ça a été des contrats de travail de 10 ans.
Trop long, oui.
Ça n'a aucun sens. Ça, c'est vraiment l'exception au Canada. Puis au Québec aussi, tu vois pas ça des contrats de travail de 10 ans. Là. C'est vraiment, là, moi, j'avais pas vu ça. J'ai vu ça une fois dans le débardage, un contrat de travail aussi long. Mais sinon, là, ça n'a pas de sens parce que justement, le problème, c'est que pour l'employeur, c'est parfait parce qu'il achète la paix industrielle puis il peut se dire que pendant 10 ans, j'aurai pas de conflit. Puis en plus, je peux prévoir à long terme mes augmentations de salaire. Donc, mes états financiers vont être stables. Mais on le voit bien, là, un syndicat qui a pas négocié pendant 10 ans, on l'a vu chez les agents de bord puis chez les pilotes, quand vient le temps de négocier, là, ils ont le couteau entre les dents puis ils sont pas prêts à faire de compromis parce qu'ils ont, ils ont eu mal, eux autres, pendant la pandémie. Là.
Ben là, aussi, parce que le pouvoir d'achat tellement diminué pour ces employés-là.
Il y en a qui n'ont même pas eu le pourcentage d'inflation depuis des années. Là. Fait que pas d'augmentation, pas l'inflation. C'est des affaires qu'on pensait jamais possibles, puis plus qu'on pense.
Ah non, non, tout à fait. Fait que c'est pour ça que il faudrait pas penser, ça va être tough, ça, là. Ça se peut qu'il y ait un conflit pour vrai, là. Parce que, mais on va voir, parce que là, le PDG d'Air Canada va finir par partir, là.
Oui.
À un moment donné, est-ce que dans la transition, ils vont vouloir, justement, pas créer de conflit puis avoir une entente avant le déclenchement possible cet été? Mais je regardais, là, le syndicat s'est réuni, ils ont l'appui de leur syndicat américain. Puis si je fais le parallèle, là, chez les pilotes, autant Air Transat qu'Air Canada, c'est le syndicat américain qui était derrière pour essayer d'imposer des salaires qui sont partout comparables en Amérique du Nord. Mmh. Fait que là, je peux dire qu'avec l'appui du syndicat américain, on voit pas ça partout, là, mais du côté syndical, ils travaillent ensemble, ils pourraient mettre la barre très, très haute, puis ça pourrait faire en sorte de nous amener vers un autre conflit chez Air Canada.
Puis rapidement, Marc, peut-être en 30 secondes, je pense pas que Air Canada a avantage à avoir une grève le 9 juillet en pleine période estivale.
Non, ils n'ont pas intérêt, mais est-ce qu'ils vont essayer de faire des pressions sur le gouvernement? Je me dépêche, là, mais pour qu'il y ait une intervention, parce que tu as vu, du côté des agents de bord, là, ils ont fini par avoir un arbitrage imposé, ces salaires.
C'est vrai.
Puis ils ont perdu. Fait que même si c'est une grosse... Moi, je considère qu'ils ont perdu, parce qu'ils sont encore en arrière sur les autres, comme chez Air Transat aussi. Ils ont eu le gain pour le travail au sol non rémunéré, mais pas à 100%. Mais au niveau des salaires, là, ils sont loin de la coupe aux lèvres. Et c'est pour ça que moi, j'étais un machiniste ou un employé actuellement syndiqué pour... l'IAM, là, le syndicat qui est en négociation, je serais quand même inquiet d'une menace d'arbitrage. Ils ont le rapport de force, mais est-ce que le gouvernement va vouloir, en cas de conflit, intervenir puis tenter d'imposer un arbitrage? Ça va être à surveiller.
Yes, on va surveiller ça avec toi, évidemment. Marc Rangé, toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite une excellente fin de journée.
N'importe quand. Salut à vous deux.
Salut,
bye.
Marc Rangé, notre spécialiste en conflit syndical en relations de travail. Toujours très pertinent de lui parler, une trentaine d'années justement, de service pour le syndicat de la fonction publique canadienne.
Mini question pour les gens qui nous écoutent, 88-971-1021. Est-ce que vous avez eu un pourcentage d'augmentation lié à l'inflation, comme on voyait depuis toujours dans les dernières années? Sinon, OK. Parfait. Augmentation qui date de combien d'années la dernière fois qu'on vous a augmenté? Puis, c'était-tu au-delà de l'inflation? Donnez-nous de l'information. On va voir c'est quoi un peu le portrait type. Là.
Vraiment. Très, très bonne question pour nos auditeurs. Au 418-971-1021. Dans un instant, on termine tout cela en manchette rapide et en sport avec les matchs de Ligue nationale de ce soir.
On en jase. 14h. On en jase.
Comme d'habitude, c'est le retour de Gravel qui va suivre de 14h à 18h avec Denis Véraud et Audrey. C'est Marceau du soir avec Marc Bellemare, Maître Bellemare, puisqu'on est lundi. Pascal, parle-moi donc des boîtes de carton à sac. Là. Qu'est-ce qui arrive avec ça, là?
Après Desjardins qui recule sur son affichage, sur son application là, de vos finances, là, on le savait, là. Ben c'est la SAQ qui recule.
Ben, j'espère donc.
Ben non, on n'augmente pas vos bouteilles de vin.
Je la veux, ma boîte, moi.
Mais oui, on a l'intention de ramener les boîtes de carton. On avait dit, ben non, là, on ne veut plus en donner. À compter du 1er août, c'est fini. Mais non, non, non. On va continuer de vous en donner des boîtes
Imagine,
de carton gratuites.
Ils ont essayé de nous fermer la boîte avec ça. Pareil, je m'en vais au gang show, hein?
T'es con.
C'est cœur. À pas manquer, 24 avril.
Volte-face de Jeff avec le gang show et volte-face de la SAQ aussi après 4 jours. Vous allez avoir votre boîte si vous achetez des bouteilles de vin, mesdames et messieurs.
Ah, qu'on est content! On a gagné! Faut toujours se révolter.
Mais tu sais, selon la SAQ, c'est un changement qui aurait permis d'économiser $1 million par année.
Ouais, là, parce qu'ils voulaient revendre le carton.
Mais tout en contribuant à la protection de l'environnement, mais là...
Ouf, en tout cas. Bref, quelque chose de même plus intéressant. Flyers-Pingouins ce soir, 19h. Les Flyers mènent 1-0 dans la série. Sénateurs-Hurricanes, c'est à 19h30. Les Hurricanes mènent 1-0 dans la série. Le Wild du Minnesota qui a clenché les Stars de Dallas 6-1 dans le premier match sont encore en visite à Dallas. C'est à 21h30. Et premier match de la série, Ducks Anaheim, Oilers d'Edmonton, 22h ce soir. Pour le Canadien, ce sera demain le prochain match à Tampa Bay pour affronter le Lightning à 19h. Et amateur de basketball, ce soir, c'est le deuxième match de la série Raptors-Cavaliers de Cleveland. C'est à Cleveland, les Cavaliers l'ont emporté dans le premier match. Le match est à 19h. Ah, je vais pitonner entre le hockey et le basketball ce soir.
Amuse-toi bien.
Val, je t'aime. OK, salut! C'est le retour de Gravel qui arrive. Salut, Pascal, à demain.
Salut, à demain.